du banc. Le podcast pour comprendre le jeu vous est présenté par PMU.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième épisode de la saison 7 de Vue du banc. Après avoir analysé la semaine dernière les équipes à suivre cette saison, celles qui nous intéressaient, on va se pencher cette fois sur les joueurs à suivre. Et dans cette optique, je suis accompagné des deux tauliers habituels. D'abord Christophe Cuchy, salut Christophe.
Salut Raphaël Cosmidis.
Enchanté de t'avoir avec moi. Et évidemment Florent Tonuti, le grand big boss de Vue du banc. Salut Florent.
Salut Raphaël.
Bon, avant de se pencher sur les joueurs à suivre, qu'on va découper par championnat, comme on avait fait les équipes, Florent, on va d'abord s'attarder sur deux rencontres qui nous ont intéressés ce week-end. Je parlerai Allemagne avec Christophe. Mais je vais commencer avec toi sur un match qu'on a vu tous les deux samedi soir, puisqu'on a fait une impasse sur Fort Boyard en direct, enfin en tout cas sur la première diffusion, ce qui est déjà dans le vue du banc un gros effort, pour regarder Rennes-Monaco, le match entre deux équipes prétendantes au podium en Ligue 1 cette saison, victoire des Rennais 2-1, et dans l'ensemble un match très très sympathique, pour plusieurs raisons. Flo, laquelle toi t'as vraiment marqué? On pourrait parler des joueurs, des équipes, mais qu'est-ce qui a retenu ton attention? Parce qu'on était parti pour regarder avec un œil, finalement on a fini par regarder avec les deux yeux.
Ouais, bah c'était un match très plaisant sur le plan du rythme. D'un côté comme de l'autre, on avait deux équipes qui savaient ce qu'elles avaient envie de faire au coup d'envoi pour aller dans les 30 derniers mètres adverses. Donc il y avait des plans de jeu très clairs qui s'affrontaient. On avait déjà parlé de la capacité de Monaco à bien attaquer et à bien organiser la construction de son jeu lors de l'épisode précédent, la semaine dernière d'ailleurs. Et là, Rennes en face a bien trouvé des solutions pour passer le pressing de Monaco, passer la première ligne, notamment en passant par les côtés, chose très bien montrée par Julien Momont à la mi-temps et à la fin du match sur Téléfoot. Donc ouais, match très plaisant entre deux équipes avec des plans de jeu très... très clair, fonctionnel, et une victoire rennaise à la fin, alors que Monaco a sans doute eu un peu de mal à trouver un second souffle, on va dire, à l'heure de jeu. Et je pense que la perte de Fabregas a aussi été pour beaucoup dans leur désorganisation. Donc si Fabregas tient pas 90 minutes sur toute la saison, il va falloir peut-être que Kovac trouve une autre solution quand il devra faire sans lui. Mais un match très plaisant, surtout si on le compare, par exemple, au Marseille-Lille, qui était un autre choc entre des prétendants, a priori, aux premières places, et où là, en termes de plan de jeu, c'était quand même, surtout côté marseillais, beaucoup moins abouti, beaucoup moins évident, beaucoup moins clair, alors que côté lillois, on était sur la même chose que la saison dernière, mais sans forcément d'individualité très forte sur ce match-là pour vraiment porter le système jusqu'à la victoire.
Bon, apparemment, Christophe, tu viens de te rendre compte que tu as vu ce match, contrairement à ce que tu m'as dit il y a 20 minutes quand on a commencé à préparer le podcast. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce match remporté grâce à l'entrée de La Truffe? Puisqu'on a aussi appris lors de cette rencontre qu'Adrien Truffert était surnommé La Truffe par ses partenaires, ce qui déjà est un bon point pour Vue du banc. On apprécie cet effectif rennais.
Oui, alors déjà pour révéler les coulisses, tu ne m'avais pas demandé si j'avais vu ce match, mais si j'avais vu le match entre Chelsea et Liverpool, et puis Florent a décidé de changer au dernier moment pour passer sur Rennes-Monaco, et là tu ne m'as pas demandé mon avis. Fin de l'aparté, est-ce que j'ai pensé du match? Évidemment, je ne fais pas de pause dans ma phrase, comme ça tu n'as pas le temps de placer un mot au milieu. Bon, de toute façon, j'ai raison, donc c'est pas très important. Alors j'ai déjà trouvé ça effectivement très bon, encore meilleur le lendemain après avoir vu le match de Lille face à Marseille, parce que du coup c'est vrai que tu te rends compte que tous les chocs de Ligue 1 ne se valent pas, et que ce que tu peux prendre pour plus ou moins acquis quand tu vois un match de bonne qualité, ensuite quand t'en vois un beaucoup moins bon, tu te dis ah oui, effectivement tous ne sont pas à ce niveau-là. Limite, ce que j'ai le plus aimé, c'est la capacité de Rennes, mais c'est pas la première fois, hein, mais face à un adversaire qui quand même commence à savoir ce qu'il veut faire, même si je trouve que quand Monaco subit, c'est assez compliqué. Si t'as plus Fabregas pour sortir les ballons, tu sens quand même que cette équipe-là est pas forcément faite pour souffrir, pour jouer bloc bas, alors que sur son pressing, sur son utilisation de la balle, sachant que beaucoup d'adversaires de Monaco lui avaient laissé la balle avec donc des pourcentages de possession assez élevés depuis le début de saison, on va te rendre compte que finalement Monaco est peut-être mieux dans ce plan de jeu-là, quitte à affronter des blocs assez bas que quand il faut subir. Mais pour le coup, vraiment la capacité de Rennes à faire rentrer des joueurs qui vont apporter quelque chose de différent, finalement à être à l'aise dans plusieurs scénarios de match et jamais totalement bloqué, alors que, enfin, tu citais Marseille, Lille ou autre, les changements n'apportent pas forcément grand-chose, à la fois sur les individualités qui rentrent et puis sur la physionomie générale du match. Là, j'ai l'impression quand même, c'est une constante. Non seulement là, Julien Stéphane, je trouve quand même un bon plan de jeu dès le départ, mais quand Martin, Ted Del Castillo, Truffert entrent, ça change quelque chose, les positions peuvent un petit peu évoluer, le rapport de force aussi, et c'est, je pense, pas anodin. Alors Monaco manquait de souffle, la sortie de Fabregas n'a pas aidé aussi sur la qualité technique une fois sous pression, mais je trouve que Rennes a cette faculté à finir fort qu'on a déjà vu la saison dernière et qui est de plus en plus intéressante, parce que là, pour le coup, Camavinga par exemple fait pas un super match. Et finalement, tu réussis à trouver d'autres solutions avec des latéraux. Alors là, c'était Truffert, il y a Sopi qui a fait aussi des bons matchs hein, en tant que numéro 2 qui est propulsé numéro 1 sur le côté à la place de Traoré. Donc vraiment, vraiment assez intéressé par cette équipe de Rennes. Je sais pas si son plafond est très haut, mais j'ai l'impression qu'elle descend pas en dessous d'une certaine, tu vois, en dessous d'un 7 sur 10, quoi, semaine après semaine.
Et on révélera aussi que Christophe, en première période de ce match, tu te posais la question de si Nzonzi avait déjà marqué de la tête dans sa carrière.
Absolument.
Il a répondu en deuxième mi-temps. Toujours ce grand timing dans nos analyses. Pareil, où je me moquais de Terrier sur ses non-passes décisives et 10 minutes après, il claque une passe D. Donc, bon, on passe souvent pour des idiots. Heureusement, on ne diffuse pas forcément tous les passages où on a l'air bête. Non, Florence, qui était marquant sur ce match, mais après tout ce qu'on a dit sur les individualités et le niveau des coachs, c'est surtout la qualité technique qui est pas toujours présente sur ces chocs-là de Ligue 1. Là, on a vu du fixe et renversé, on a vu de la qualité dans le jeu long. Après, quand t'as Fabregas, Camavinga et Nzonzi sur le terrain, ça aide aussi. On a vu des joueurs capables de se projeter, de conduire le ballon et d'avancer comme Tchouaméni et Fofana. On a vu Ben Yedder être mobile et toujours cette qualité pour finir. Diop aussi pas mal dans un registre des liens intérieurs. Des défenses centrales qui sont pas mal des deux côtés. Parce qu'on n'a pas encore parlé d'eux, mais Disasi, Badiachil côté Monaco, c'est pas mal. Et Aguerd en face fait un très gros match, notamment dans la relance. Il fait aussi un retour, je sais plus si c'est sur Ben Yedder ou Voland, mais il fait un retour pour empêcher une frappe en 1-1 de Monaco. Peut-être le petit bémol de la rencontre, surtout pour Rennes, c'est la blessure de Mawasa.
Oui, ouais, la blessure de Mawasa. D'ailleurs, ça permet aussi de placer le fait que les latéraux, voire pistons, participent énormément offensivement, que ce soit côté Monaco, même si Aguilar est beaucoup monté, Sidibé un petit peu moins. Mais quand tu parlais des fixés renversés, ce qui était très intéressant, c'est que à la retombée du renversé, c'était souvent forcément un des latéraux qui était en position avancée, et ce latéral-là arrivait à contrôler dans le sens du jeu et à ne pas faire la fameuse passe qu'on pourra qualifier de Dubois aujourd'hui, c'est-à-dire je contrôle et je remets en retrait un milieu de terrain alors que j'ai de l'espace devant moi pour aller fixer et pour aller percuter. Ça, c'est quelque chose aussi qui renforçait cette impression en effet de qualité technique, et ça des deux côtés du terrain pour le coup.
Et c'est un match qui finit à 29 tirs. C'est aussi pour ça, je pense, le plaisir qu'on a pris, c'est que on est dans les moyennes très très hautes de la Ligue 1. Il faudrait comparer sur d'autres matchs moins sympathiques, mais 15 tirs pour Rennes, 14 pour Monaco, 58 à 42% de possession, 88% de passes réussies pour Rennes, 81 pour Monaco. Donc ouais, beaucoup de qualité et un Rennes qui finit mieux. Alors le mercato rennais n'est pas fini, Christophe, puisqu'on entend parler encore de défenseurs centraux, on entend parler encore de renforts offensifs. Quel besoin tu vois de pourquoi pas un gardien aussi pour remplacer Mendy en partance pour Chelsea? Quel est le besoin prioritaire pour Rennes? Est-ce que si t'as des idées de noms comme ça qui te viennent, tu peux y aller?
Bah écoute, je t'avoue que déjà l'effectif quand même là tel qu'il est construit, de toute façon ça se voit avec le classement de Rennes, est quand même très costaud. Après il y a deux angles. Le premier, c'est celui de la profondeur de banc, à la fois si t'as des blessures et puis juste la gestion Ligue des Champions, milieu de semaine, championnat le week-end, qui peut fatiguer. Et là-dessus, par exemple, avoir un défenseur central au cas où l'un des deux se blesse à Garda Silva, c'est assez fonctionnel. Après, je sais pas si c'est à niveau Ligue des Champions, mais est-ce que t'as le budget pour aller chercher un joueur de niveau Ligue des Champions? Et est-ce que c'est pertinent de mettre l'un des deux, peut-être plutôt Da Silva du coup, vu que tu viens de prendre Aguerd sur le banc? Je suis pas persuadé qu'à court terme ça soit forcément le meilleur plan. Donc est-ce que tu prends juste de la rotation? A priori c'est plutôt la logique qui se pose sur notamment ce poste-là de défenseur central. Et le deuxième truc, c'est par contre d'aller chercher quelqu'un qui va immédiatement améliorer ton 11 et t'apporter quelque chose de différent. J'avoue que j'étais un petit peu, juste en me basant sur les rumeurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Tomori, par exemple, je suis pas sûr que ça soit le plus intéressant, donc parce que je le vois à la limite trop proche du niveau des deux défenseurs centraux. En gros, si t'es bien moins bon, t'acceptes d'être numéro 3. Si t'es meilleur, tu dois être titularisé. Là, je lui vois un niveau un peu intermédiaire, un peu embêtant. Par contre, Rennes Adelaide, ça peut être intéressant, mais en fait, tout dépend de ce que va faire Camavinga. Parce que là, depuis son super match en équipe de France, où pour le coup, il a fait du Rennes Adelaide, voire du Rennes Adelaide en mieux, il a un tout petit peu plus de mal. Alors, on va pas juger cet échantillon-là en disant que Camavinga va redevenir un joueur un petit peu plus on va dire dans le contrôle neutre entre guillemets dans la prise de décision vers l'avant, et que Nzonzi va se mettre à faire beaucoup de courses et à se projeter là comme il l'a fait depuis quelques semaines. Mais c'est vrai que Reine Adélaïde, si tu prends là le côté à la fois numéro 8 qui peut casser des lignes percutées, mais qui peut aussi se retrouver un peu ailier plus à même de jouer, parce que là autant Terrier qui lui va se recentrer mais qui a pas non plus une qualité technique entre les lignes folles, ou Rafinha qui lui est beaucoup plus dans la percussion, dans la prise de décision par le dribble, dans la finition. Peut-être d'avoir quelqu'un qui peut avoir un peu ce côté meneur quand même comme Reine Adélaïde, un peu entre deux postes, ça peut être intéressant pour couvrir donc à la fois ce poste d'ailier selon ce que tu veux en faire, et de milieu axial là par exemple pour jouer à la place de Bourigeaud. Après, est-ce que Reine Adélaïde vaut 25-30 millions? Ça, c'est une autre question. Et quel est véritablement le budget de Rennes en fonction du prix que tu vas mettre pour un gardien? En fait, si tu vends Mendy 25 et que tu prends un gardien S5, là, effectivement, ça donne une marge de manœuvre. Sinon, ça sera peut-être pas forcément judicieux de bouger avant le mercato de janvier et de la sauter sur un mec qui n'aura pas joué pendant 4 mois et que tu pourras avoir en prêt relativement facilement.
Je reste avec toi, Daguet, puisqu'on va passer à un autre match débriefé du week-end. On va faire 10 minutes également dessus, pas plus long, puisqu'après on a beaucoup de joueurs à évoquer. C'est le match entre les deux Borussia en Allemagne, Borussia Dortmund contre Borussia Mönchengladbach, victoire 3-0 des hommes de Lucien Favre. Est-ce que Lucien Favre a encore fait une Lucien Favre, c'est-à-dire un match avec un score net, alors que ça se voyait pas forcément sur le terrain? Je suis en train de regarder les stats, je n'ai pas vu le match. 10 tirs à 8 pour Dortmund, 48% de possession, passe réussi 87 contre 88, et 3-0 avec but de Reina, but de Haaland, et but de Haaland encore. Notamment une passe D de Jude Bellingham, la petite pépite chopée à Birmingham. Voilà, que peut-on dire de cette rencontre, Christophe, pour cette première journée de Bundesliga?
Bah déjà que Bellingham répond à une question qu'on se posait il y a 2 semaines pour le premier épisode de la saison sur les milieux de terrain qui débutent très tôt. On nous avait soumis quelques noms intéressants sur Twitter et autres, notamment Nuri Sahin qui avait aussi commencé très tôt, et là Bellingham qui se retrouve titulaire. Alors c'est qu'un match, hein, je sais pas si ça va durer, mais à Dortmund à 17 ans fait partie de ces joueurs extrêmement précoces. La deuxième chose, quand même qu'il y a une partie de Favre dans ce match de Dortmund, parce que même si Gladbach a eu quand même un temps relativement faible à partir du moment où Reina ouvre le score à la 35e, jusque-là Dortmund ne faisait pas grand-chose, et ce match-là, il se gagne en gros sur la capacité à plutôt bien digérer les temps forts adverses, alors en concédant quand même quelques trucs, mais pas non plus énormément, et à frapper une fois que tu marques sur une, pas dire sur une demi-occasion, mais l'une des rares fois où tu sors et t'es vraiment en train d'attaquer en nombre, derrière tu gères, et puis tu mets tes contres, et puis tu vas marquer le deuxième et le troisième but. Donc c'est vrai qu'il y a une partie quand même de Favre où finalement, je vais pas dire que tu sais pas comment cette équipe gagne, mais le plan de jeu est bon, mais tellement pas en mesure d'étouffer l'adversaire, que finalement, tu te dis, bon, c'est un match relativement équilibré, et à la fin, ça fait 3-0. C'est là aussi que tu vois, et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que, bon, du côté de Gladbach, faut quand même pas tirer des conclusions folles, parce que Plea et Thuram étaient remplaçants et sont rentrés à l'heure de jeu. Voilà, physiquement, ils étaient pas encore forcément prêts à débuter. Donc, cette équipe de Gladbach avait pas sa forme habituelle, sans qu'Embolo a été blessé sur la phase internationale. En plus, Ginter, je crois, qui est son partenaire en club, donc truc un petit peu ballot. Donc, l'équipe de Gladbach était pas dans sa meilleure version. Mais, dans ce match-là, qui était très loin de ce que peuvent être les affrontements traditionnels entre ces deux équipes, avec énormément de pressing, du jeu rapide, un truc qui te rend assez essoufflé devant ton écran parce que le jeu a pas le temps de se poser. Là, c'était vraiment de la possession calme, très peu d'action. Là, franchement, la première mi-temps, elle est quand même vraiment oubliable. Si les gens peuvent revoir un match, clairement, c'est pas celui-là que je retiens. Et n'empêche que Dortmund a su gagner ce match-là, et je pense que c'est le type de match qu'il va aussi falloir gagner, parce que ça avait plus une configuration d'un adversaire, je vais pas dire lambda de Bundesliga, mais ce sont des matchs moins fous que ceux que tu peux rencontrer parfois, et au final, sur des attaques relativement placées et quelques contres, Dortmund a su faire la différence, et je pense que cette capacité à être réaliste va vraiment être un point clé, réaliste dans les deux surfaces évidemment, notamment offensivement, un point clé pour Dortmund, parce que son organisation avec les deux milieux axiaux fait que de base t'es quand même plutôt en bloc médian à jouer des transitions, et que tu vas pas toujours t'installer dans le camp adverse ou développer un jeu de position très précis.
Oui, ça c'est une classique de Favre, hein, qu'on a souvent vu être sur du bloc médian. Alors il y a cette sortie de balle assez propre, mais quand le ballon est perdu, c'est pas forcément l'idée d'aller agresser l'adversaire très très haut. Ça va défendre en zone, récupérer à la médiane et derrière attaquer dans la profondeur. Alors je lis sur Ouscorn que c'était un 3-4-1-2. avec donc Akanji, Hummels et Chan en défense centrale. Thorgan Hazard côté gauche, Thomas Meunier côté droit, Bellingham et Witzel ensemble au milieu. Reina en 10 derrière Sancho et Haaland. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé pour Dortmund? Et qu'est-ce que ça promet pour la suite? Parce que Reina finalement va commencer à demander des minutes petit à petit. Que là, Reus et Brandt étaient sur le banc. Que Delaney qui était titulaire l'an dernier était sur le banc. Qu'il y a donc, je ne sais toujours pas le dire parce qu'on a eu 8 propositions, Reiner... qui est sur le banc également, Daoud est toujours là. Qu'est-ce qu'il faut garder de ce Dortmund tactiquement par rapport aux individualités qui le composent et qui peuvent gagner ou perdre leur place?
Moi, je pense que déjà on va l'appeler Yves Reinier parce que les gens lusophones ou qui vivent au Brésil nous ont tous dit qu'en gros c'est un nom qui n'existe pas vraiment du côté du Brésil, donc personne ne sait trop le dire parce que c'est pas habituel.
Ce sera commissaire Moulin à partir de maintenant dans les podcasts.
Voilà, mais en fait ce qui est vraiment intéressant c'est que j'ai pas l'impression que ce soit forcément la meilleure configuration pour Dortmund. Alors il y a beaucoup de jeunes donc il y a l'incertitude parce que si ça se trouve Bellingham et Reina dans 3-4 semaines. Bon, alors peut-être un petit peu plus, mais tu te rendras compte que c'est comme Sancho quand Sancho émergeait, c'est-à-dire que très rapidement, malgré son âge, il s'impose comme des titulaires en puissance meilleurs que les joueurs habituels. Mais là, par exemple, Hazard, alors je suis pas persuadé qu'Hazard soit un piston gauche dans l'âme, mais se blesse au bout de 20 minutes, il est remplacé par Paslak, qu'on avait un peu oublié depuis ses débuts à Dortmund, qui a été prêté un peu partout, et qui là fait vraiment une bonne entrée, qui d'ailleurs est sur le troisième but, un contre de corner, les fameux corner pour Gladbach et but dans le camp adverse sur le contre signé Dortmund. Mais c'est vrai que alors, je ne vais pas dire que tu as trop de joueurs, parce que tu n'as jamais complètement trop de joueurs, tu as parfois trop d'ego, mais d'avoir Reus et Brandt sur le banc qui remplacent Sancho et Reina, alors à voir si Sancho va rester ou pas, c'est un bon problème à avoir. Après, c'est toujours pareil, en fait, pour moi, vraiment la clé de Dortmund, ça ne sera pas forcément, à partir du moment où tu as toutes tes forces vives, et notamment Haaland, qui confirme quand même match après match que c'est parti pour être un très bon attaquant pendant un moment. La vraie question, ça sera sur ton double pivot, quoi. Witzel, Bellingham. J'ai vraiment beaucoup de mal à voir ce que Bellingham a fait de bien, parce que visuellement, alors après, les blocs médians, souvent, visuellement, c'est pas très impressionnant. Mais j'ai l'impression qu'il a plutôt bien géré sa zone sans plus. Et à la fois, bon, sa passe décisive est pas dégueulasse, même s'il y a rien d'extraordinaire. Un petit extérieur du pied. Et globalement, le fait que Dortmund n'ait jamais vraiment subi, ça dit quand même quelque chose de la compacité et la complémentarité entre Bellingham, Witzel et le reste du bloc. Donc je sais pas si Bellingham est un top joueur, mais toujours est-il qu'il est resté sur le terrain pendant quasiment tout le match, enfin 70 minutes, et que pendant tout ce laps de temps-là, Dortmund n'a jamais vraiment subi. Donc si ton bloc médian t'empêche de subir et que tes joueurs offensifs sont aptes, je pense qu'ils seront toujours à même de faire des différences. Finalement, ta plus grande menace sur la plupart des rencontres, ça sera les coups de pied arrêtés, parce que Dortmund avec Favre est quand même traditionnellement très friable, notamment sur les corners. Donc là, ça s'est pas matérialisé. Mais là-dessus, c'est quand même, je pense que ça sera pas une équipe forcément spectaculaire dans le jeu, mais je pense que si tu regarderas juste les résumés, tu auras vraiment pas mal de choses à te mettre sous la dent côté Dortmund. Après, ouais, comme je le disais, côté Gladbach, c'est plus incertain, mais c'est très loin d'être la meilleure version de cette équipe. Je pense que dans 2-3 semaines, avec les joueurs de retour et de nouveau cette intensité qui monte, Gladbach se resituera à un niveau qui doit l'amener entre 4 et 5e, je pense, du championnat.
Ouais, Thuram et Pléa ont commencé sur le banc, par exemple, hein, cette rencontre, alors que c'était les deux gros stateurs l'an dernier de Gladbach. Tu confirmeras, Christophe, mais il me semblait que c'était à la fois les deux qui avaient fait double-double quasiment à Gladbach, qui du coup motivaient et encourageaient et faisaient vivre cette attaque de Marco Rose. Voilà pour Dortmund-Gladbach, on suivra leurs évolutions au cours de la saison et on va se concentrer maintenant, Florent, sur les joueurs à suivre cette saison. J'aimerais qu'on ait des jingles, mais on n'a pas encore de jingles, donc jingle joueur à suivre, voilà, je le fais à l'oral, c'est parti. Et on va commencer par la Ligue 1, Florent, où tu as deux noms à nous proposer, un qu'on a déjà pas mal évoqué parce qu'il était apparu dans notre jeu du directeur sportif il y a quelques semaines, on l'avait envoyé à l'Atalanta, et un autre qu'on n'a pas forcément l'habitude d'évoquer dans Vue du Banc, mais qui fait partie d'une équipe qui démarre très très bien le championnat. Je te laisse commencer par celui de ton choix, soit le Lensois, soit le Stéphanois.
Bah, je vais commencer par celui attendu, c'est le Lensois, c'est Seko Fofana, pour une raison simple. Alors je voulais éviter les redites avec l'épisode de la semaine dernière où on a fait les équipes à suivre et où Christophe avait déjà pas mal parlé du Racing Club de Lens, mais j'ai vu Lens ce week-end face au Girondins de Bordeaux pour une victoire 2-1, mais qui aurait mérité beaucoup mieux, puisque je crois qu'en termes de XG, on termine à plus de 3 XG pour les Lensois. Donc c'était vraiment une vraie, vraie, vraie démonstration, avec notamment un Ganago qui rate une belle occasion en première mi-temps, ou Costil qui la sauve. Mais bref, c'est Ganago qui permet en partie à Bordeaux de rester dans le match entre la première et la deuxième mi-temps. Mais donc, c'est Seko Fofana. Pourquoi je veux parler de lui? Parce que j'ai vu un petit peu ce que Francaise demande à ses milieux de terrain qui étaient sur ce match-là, Doucouré et Cahuzac. Et en fait, ça m'a intrigué parce qu'habituellement, on demande à des milieux de terrain dans un système comme ça, en 3-4-3 ou 3-4-1-2, avec Kakuta derrière les deux attaquants, on demande à ces deux joueurs-là d'être, si on prend le système de l'Atalanta, d'être un petit peu les régulateurs, d'être des mecs qui vont faire jouer les autres, mais qui vont pas se projeter. À l'Atalanta, c'est même les défenseurs qui se projettent parfois avec Toloi, mais De Roon et Freuler, quand ce sont les deux qui sont associés, ils restent dans des positions très très sûres au milieu de terrain pour couvrir les transitions, etc. Et là, en fait, Cahuzac et Doucouré, c'est pas du tout ça. Ce sont deux joueurs qui ont un gros volume de jeu, tant défensif que offensif, et qui vont faire beaucoup de courses vers l'avant, qui vont se projeter énormément, et qui vont créer des espaces pour les autres, et surtout aller fixer des défenseurs plus haut sur le terrain. Et en fait, c'est un style qui colle tout à fait à ce que fait à ce que faisait Seko Fofana du côté de l'Udinese, et à ce qu'il pourrait faire à Lens. C'est-à-dire que là, ce qui va lui être demandé, ça va être quand il aura la balle dans les pieds, ça sera évidemment de la portée, mais quand il n'aura pas la balle et que le jeu sera dans les pieds de Kakuta ou d'autres joueurs, ce sera de se projeter et de finir dans la surface de réparation. Plusieurs fois, Cahuzac termine dans la surface sur des centres, idem pour Doucouré de l'autre côté, en fonction de là d'où part le centre. Et donc, je me dis que Fofana peut être tout à fait, en effet, un vrai, vrai, vrai plus pour des Lensois qui ont déjà, en plus, très, très bien démarré la saison, puisqu'il s'agit aujourd'hui, après 4 journées, de la meilleure équipe de Ligue 1, tant en expected goals pour qu'en expected goals contre, je vais y arriver, et aussi en expected points. Donc vraiment très intrigué par son intégration, déjà que face à Bordeaux, il rentre et il va faire une percussion où il va, je crois, faire très très mal à Otavio en portant la balle sur 10-20 mètres. Très intrigué sur sa première titularisation, et j'espère qu'elle va arriver assez vite.
Seko Fofana, un petit point sur ses statistiques les saisons précédentes pour vous faire un peu une idée. 3 buts et 7 passes dès la saison dernière, 2 et 4 la saison d'avant. 3 buts, 0 passes dès 2017-2018 et sa première saison au Udinese, parce qu'il a fait quand même 4 ans là-bas, il avait fait 5 buts et une passe dès. Donc voilà, il peut très bien, vu ce que tu nous as dit de Lens, Florent, faire un 5-5 par exemple. Ça semble dans ses cordes, et pourquoi pas mieux.
Peut-être plus de buts que de passes dès cette fois. Ça sera peut-être inversé.
Passer du 3-7 au 7-3 alors.
Par exemple, saison
à Lens. Ton autre joueur, Arnaud Nordin de Saint-Etienne. Saint-Etienne qui est leader de Ligue 1, si je ne m'abuse, avec 3 victoires et 1 nul en 4 matchs, avec 8 buts marqués, 2 buts encaissés. Ça démarre très bien pour les Stéphanois. Est-ce que ça démarre aussi bien pour Arnaud Nordin, pardon?
Ça démarre plutôt bien, ouais, pour lui qui est performant, qui a déjà marqué et fait marquer, je crois, depuis le début de la saison. Je suis en train d'essayer de retrouver ses statistiques.
Il est à 3 passes décisives et 0 but pour l'instant.
Ah, 0 but. Mais déjà 3 passes décisives, donc. Alors pourquoi je veux parler d'Arnaud Nordin? En fait, c'est un joueur qui, à une autre époque, quand il était encore avec la réserve de la Saint-Etienne, donc il y a 2-3 ans, peut-être 4 ans même, je ne sais plus exactement, je l'avais vu lors d'un match de la réserve stéphanoise à Bordeaux. C'était face au Stade Bordelais, donc on était en National 2, et Nordin ce jour-là avait vraiment roulé sur tout le monde, et je crois qu'il avait terminé le match avec 2 passes D, 1 but ou un truc comme ça, avec un but en plus où il prend la balle au niveau de la ligne médiane et il va traverser tout le terrain en puissance pour aller marquer tranquillement. Et en fait, là, ce que je vois sur le début de saison, c'est un petit peu ce que j'avais vu il y a 3-4 ans, mais qu'il n'avait pas encore réussi à refaire en Ligue 1, notamment son action face à l'Olympique de Marseille, mercredi, où il donne le 2-0 à Bouanga après avoir mis un gros double contact à Kalaitatsar et avoir accéléré sur une trentaine de mètres. Et en fait, ce qui est intéressant dans le système stéphanois mis en place par Puel, c'est que c'est une équipe qui prend beaucoup de risques à la relance, c'est-à-dire que il y a Moulin dans les buts et il y a des milieux qui ne vont pas hésiter à décrocher pour demander la balle, pour essayer de la sortir le plus proprement possible. Et ensuite, il va y avoir cette première passe qui va arriver dans la zone, on va dire pas loin de la ligne médiane, mais dans le camp stéphanois encore, avec l'appui d'un attaquant qui va remettre sur un autre joueur qui est dans la zone. Là, on est sur le quatuor offensif en gros, qui combine entre eux. Et en fait, derrière, une fois qu'il y a cet appui remise, il y a de suite de la profondeur, et c'est là qu'un joueur comme Nordin peut vraiment s'éclater dans cette équipe, parce que c'est un des joueurs qui a le plus de qualité justement pour attaquer cette profondeur et ensuite faire des différences et mener le décalage qui est créé en amont jusqu'à son terme parce qu'il est capable de porter la balle sur 30-40 mètres jusque dans la zone de vérité. Donc c'est plus par rapport aux qualités de jeu côté stéphanois qu'on a vu depuis le début de la saison et le fait que Nordin peut être ce joueur qui va être trouvé au moment d'attaquer la profondeur quand la balle est ressortie, quand les risques ont été pris dans les 30 mètres ou dans les 40 mètres par les défenseurs et les milieux, et ben c'est Nordin qui devrait être appelé à justement porter cette différence qui est créée en amont, porter ce décalage jusque au niveau de la surface de réparation. Et jusque là il a pas trop mal fait puisque comme tu le dis il a déjà sorti 3 passes décisives.
3 passes dé pour Arnaud Nordin qui fait partie d'un secteur offensif bien fourni quand même parce que maintenant il y a Aouchiche, Amouma, Bouanga, Charlaby qui était aussi dans la confiance. Alors il y a un attaquant qui est venu d'Épinal dont j'ai oublié le nom mais Christophe Laura.
Jean-Philippe Crasso que j'ai à MPG, choix totalement perdant mais choix du cœur.
La crasse comme on l'appelle. Puisque c'est comme Truffert, des noms qui peuvent être très facilement modifiés. Christophe, partons avec toi pour parler de deux joueurs qui sont dans des clubs pas forcément très exposés. Un à Reims, un à Nîmes. Deux équipes d'ailleurs déjà intéressantes en ce début de saison. Reims qui est surtout concentré sur la Coupe d'Europe pour le moment. Est-ce que tu préfères commencer par le Nîmois ou par le Rémois?
Ouais, alors je sais pas si Reims est intéressant en ce début de saison avec son point et son jeu minimaliste, mais...
S'ils arrivent à se qualifier pour la Coupe d'Europe, je pense que le début difficile en Ligue 1 sera oublié.
Ouais, comme ça, ils seront contents d'avoir fait un huitième de finale de C3 quand ils seront en Ligue de l'année prochaine. donc, mais intéressant, on peut se lire à deux titres, et c'est à ce titre-là que je vais parler de mon premier joueur, Valon Berisha, qui ne réussit pas un bon début de saison. Et c'est ça qui m'intéresse, justement. Est-ce que Valon Berisha serait capable ou pas de hausser le curseur? Parce que j'étais convaincu, je suis encore plutôt convaincu, même si la conviction s'étiole de semaine en semaine, que ça peut être une forme de pièce manquante quand même pour cette équipe rémoise qui, on le sait, était très joueuse en Ligue 2 avec, je crois, un record de buts marqués et de points sous David Guillon, qui en Ligue 1 a construit par le forme de minimalisme quand même plutôt son bloc et qui progressivement a ajouté des touches avec notamment au milieu Kassama qui peut ressortir les ballons sous pression, voilà, essayer de plus en plus d'évoluer par le jeu en se disant que de bien défendre et d'avoir des attaquants qui convertissent les rares occasions, ça suffirait pas, qu'il faudrait améliorer le fond. Et Berisha, qui est une espèce de ce qu'ils appellent le tweener en NBA, le mec qui est à cheval sur plusieurs postes, lui très clairement il peut être à la fois milieu axial, milieu offensif, ça dépend vraiment comment tu l'utilises, même jouer côté, alors plus demi-espace que vraiment sur l'aile, mais dans l'absolu son volume de jeu doit lui apporter des choses et il a quand même une plutôt bonne créativité avec le ballon, même si je le trouve plus créatif quand il a de l'espace et qu'il a un peu de temps pour faire ses choix que s'il est face à un adversaire qui est regroupé. Et pour l'instant, il n'arrive pas trop à se mettre en valeur. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu du côté de Reims. Il fait plus des entrées en jeu qu'autre chose. Et voilà, intéressé parce que pour moi, c'est vraiment ce joueur qui doit... Alors, pas que lui, évidemment, mais il doit faire partie un peu de ce renouveau rémois qui, alors, je ne veux pas dire qu'il fallait abandonner tout ce qui était fait les saisons précédentes, évidemment, hein, mais généralement, pour durer, il faut quand même ajouter des meilleures touches, soit dans le jeu, soit dans les joueurs, faire un peu évoluer les profils, même Angers, hein, essaye de mettre plus de créativité au milieu, remplacer des Endoy par des Fulgini, etc. Et Berisha doit être ce joueur-là, et il était quand même en échec du côté de la Lazio, là, ça fait quelques saisons qu'il est en prêt et que c'est assez compliqué, et je me demande finalement que c'est si c'est un... Alors, pas un top joueur, mais un bon, voire très bon joueur, comme ce qui montait du côté de Salzbourg, ou si c'était une bonne période, mais qu'il était dans un contexte avec beaucoup de pressing, et voilà, de l'espace créé d'une certaine manière, qui lui permettait de briller. Mais c'est vraie interrogation, parce que je vais pas dire que ça peut être un échec industriel, mais lui et Zenelli doivent être les deux Kosovars des touches de créativité, l'un vraiment par la passe, et Berisha avec du déplacement. Et les deux n'y sont pas encore pour diverses raisons. Donc je pense que c'est, alors peut-être pas les deux joueurs les plus talentueux de l'équipe, mais deux des trois, quatre plus talentueux. Donc c'est aussi par eux que va passer cette capacité de Reims à hausser le curseur et à sortir de cette zone un petit peu dangereuse au classement.
Bon, Berisha, on le connaissait quand même un peu parce qu'on l'avait vu dans d'autres clubs de bon standing européen. L'autre joueur que tu veux évoquer évolue à Nîmes, Christophe, et on le connaît beaucoup moins. Nîmes qui réalise en début de saison. Alors, en point, pas tellement mieux que Reims, mais dans le jeu, c'est une des équipes dont Julien Beaumont nous parle le plus, parce que ça a l'air d'être une équipe très radicale dans sa façon de jouer, et il y a un joueur qui nous étonne depuis le début de la saison, en tout cas qui se fait remarquer, c'est Birger Meling, le Norvégien. Un but et déjà deux passes décisives cette saison. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, parce que je suis pas sûr que beaucoup de gens aient vu ces matchs.
Bah, déjà pour parler de lui, alors qu'il est quand même, je vais pas dire le tube de l'été, mais ça fait partie des joueurs qui sont les plus hypés sur ce début de saison parce qu'il fait des stats alors que pas grand monde ne le connaît. Pour parler de lui, on est obligé de lui parler du plan de jeu nîmois, alors qu'il était pas visible face à Lyon, mais sans doute un lié à l'adversaire, deuxièmement peut-être lié au besoin de prendre des points, parce que finalement contre Rennes ils ont envoyé du jeu, ils en ont pas pris, là ils ont un peu refusé et puis ils en ont pris un, donc finalement comptablement il y a quand même un plan qui est plus intéressant que l'autre, et troisièmement parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Mais le plan de Johnny Moi sur les premières journées était un truc effectivement très radical, à savoir on met 4 joueurs offensifs sur les 4 défenseurs centraux adverses, ce qui fait que du coup on les mobilise, alors
sur assez axial donc du coup bien. Que les 4 défenseurs centraux adverses, ça fait une sacrée défense.
Oui, les 4 défenseurs adverses, mais qui du coup deviennent 4 défenseurs centraux parce que t'es 4 joueurs offensifs. Je retombe sur mes pieds, mais c'est pour ça que j'ai fait le lapsus.
C'est fort. Hein.
Les 4 joueurs offensifs sont vraiment ultra serrés, ultra recentrés, ce qui fait que la défense adverse est vraiment sur la largeur de la surface de réparation, grand grand maximum. Et ce qui du coup permet aux 2 latéraux qui sont aussi positionnés extrêmement haut, mais le long des lignes de touche, d'être libres. Donc c'est-à-dire que le plan de jeu nîmois, en gros, t'as 6 joueurs limite qui sont en attaque, quasiment tous sur la même ligne, et le fait qu'il y en ait 4 très resserrés qui obligent la défense adverse à avoir un peu comme s'il y avait 4 défenseurs centraux fait que les latéraux sont libres à l'opposé. Et là-dessus, Meling, qui a cette capacité à courir vite et longtemps, à se projeter, et qui a une bonne frappe de balle, alors bonne dernière touche, on va dire, que ça soit un centre ou une frappe, ce qui lui a permis de faire des stats, là-dessus il a un vrai rôle à jouer. Alors la question c'est de savoir si Nîmes va rester sur cette idée-là ou va mettre un peu d'eau dans son vin. Alors peut-être pas faire comme à Lyon, mais voilà, arrêter ce côté, on met en gros 6 joueurs devant la balle, mais vu qu'on joue long, si la balle est perdue, sauf si vraiment une passe beaucoup trop sous-dosée, mais si le ballon est perdu, bah vu que tu joues long, bah tous tes joueurs qui étaient devant la balle redeviennent mécaniquement derrière la balle, donc du coup tu t'offres quand même une certaine sécurité en faisant des passes longues sans passer en gros par l'entrejeu. Bon, ce qui limite, on va dire, un petit peu l'influence d'un Ben Raoult, par exemple, qui doit être une courroie de transmission, et finalement, il vaut plutôt les ballons passer au-dessus de sa tête pour l'instant. Mais Meling est dans un plan de jeu assez radical qui met les latéraux en valeur, et ce qui montre, alors sur un sample assez réduit, mais apparemment, il était déjà très bon en Norvège auparavant, et assez légitime parce que on est sur un profil de latéral ailier, quoi, on va dire. Et donc, du coup, sa capacité à bien défendre est presque moins utile que sa capacité à exploiter les espaces qu'il prend dans des couloirs libérés par l'adversaire.
Alors, vous aviez aussi des mentions en Ligue 1, messieurs. Je vois que ça parle d'Alessandro Florenzi, évidemment, même qu'on a déjà évoqué dans un podcast récemment. Donc, on va pas en reparler. De Romain Perrault, Christophe, qui a marqué avec Brest ce week-end au bout d'une magnifique action. Pour les gens qui n'ont pas vu, il y avait eu le but de Cardona la semaine dernière, il y avait celui de Brest cette semaine qui est pas mal du tout. Et Florent, tu avais du Jonathan David, du Amin Gouiri, du Naïef Aguerre dont on avait parlé, du TJ Savanier dont on avait parlé aussi, Sofiane Diop, qu'on a évoqué déjà. Peut-être un petit mot sur Jonathan David et son début de saison. Florent, Christophe, tu l'as peut-être vu plus que nous d'ailleurs. Moi, je l'ai vu un peu contre Marseille. Pour l'instant, c'est un gabarit un peu particulier, Flo. J'ai l'impression qu'il a... Alors, je sais pas si c'est sa morphologie, mais j'ai l'impression qu'il est un peu arrondi.
Ouais, il est peut-être un peu lourd en ce moment, on va dire, sur ce début de saison. Il y a peut-être pas mal de choses à digérer au-delà du transfert.
Bah, il a pas fait de prépa. Hein. Enfin, il jouait pas parce qu'il était en instance de départ, donc il fallait pas qu'il se blesse. Donc il manque de rythme, quoi. Alors ça n'excuse pas tout, hein, mais.
Oui, voilà, il a quelques semaines de retard sur le planning et sur le reste de l'équipe. Ce qui est marquant, c'est que voir Lille avec lui sur le terrain, qui n'est pas forcément en canne aujourd'hui et à 100%, tu vois quand même que Lille a absolument besoin d'un David ultra efficace et capable d'apporter, parce que sur ce match face à Saint-Etienne, c'était quand même assez limité en termes de propositions offensives, parce que on le sait, un 4-4-2 pour qu'il s'anime correctement, on en avait assez longuement parlé à l'époque de l'AS Monaco de 2017, où justement le 4-4-2 fonctionnait très bien parce qu'il y avait que des joueurs qui étaient en très bonne forme, et du coup les binômes qui se créent sur les côtés, voire les triangles parfois avec les joueurs axiaux, forcément, bah, si tout le monde tourne bien, ça fonctionne très bien. Or là, avec un David qui a du mal, un Soumaré qui, à mon sens, était au ralenti sur ce match face à l'OM. Et ensuite, il restait plus beaucoup de solutions parce que Burak Yılmaz a du mal aussi à s'associer avec les autres. C'est plus un mec qui va prendre la profondeur, parfois trop même, hein, puisqu'il était très souvent hors jeu.
Bah, le problème, c'est que comme il court pas ultra vite, parce qu'il a une mini caravane quand même, je pense qu'il est un peu tenté de prendre de l'avance, quoi. Il peut pas se permettre d'avoir un mètre de retard pour.
C'est ça. Mais du coup, voilà, Lille a absolument besoin de David pour vraiment atteindre son vrai potentiel offensif et collectif. Donc, on va surveiller ça sur les 2-3 prochaines semaines, parce que c'est vrai évidemment que s'il a un retard dans sa préparation, ça peut expliquer pourquoi il a l'air un peu, comme tu le disais Raphaël, un peu rond aujourd'hui sur le terrain.
Et juste dire un mot de mes deux joueurs, mais vraiment en une phrase, Perrault de Brest, parce que c'est un peu latéral à la mêlée, sauf que Brest le libère en ayant construit son action, et du coup il vient vraiment en bout de chaîne où l'adversaire a été aspiré, etc., côté fort, et donc du coup tu mets la balle côté faible, et Perrault peut en profiter pour du coup faire des stats. Donc c'est un peu la même conclusion, il a de l'espace, mais c'est pas du tout dans le même projet de jeu que Nîmes, c'est beaucoup plus élaboré. Et simplement sur Florenzi, vous en avez beaucoup parlé la semaine dernière, en bien, moi pour dire que, je vais pas dire que j'y crois absolument pas, mais c'est l'un des, depuis un an, c'est vraiment un joueur qui n'avait absolument pas le niveau pour jouer à Paris, donc je préfère tout de suite me prononcer pour dire que j'ai une peur immense de Florenzi dès qu'il faudra défendre, parce qu'autant c'est un super centreur, autant il défend des moins bien que Daniel Vass à Valence, et à Rome c'était très compliqué. Donc voilà, si ça se passe bien pour lui défensivement, tant mieux, mais j'ai d'énormes doutes quand l'adversité s'élèvera. Je pense que c'est un piston au maximum et que c'est pas un défenseur de défense à 4. Voilà.
Très bien.
Parce que vous en avez déjà parlé, mais c'est positivement. Donc, je préfère donner ma touche négative tout de suite. Et tant mieux s'il retrouve un niveau qui était le sien il y a quelques années. Mais je m'en suis voulu l'an dernier de ne pas comparer Ganagay à Krikoviak au moment où tout le monde disait du bien de lui. Donc là, je préfère tout de suite poser ma négativité et on verra si l'avenir me contredira ou non.
Tu fais bien. Voilà pour la Ligue 1. Il y a sans doute d'autres joueurs qui seront intéressants à suivre. On aura l'occasion de les mentionner, les évoquer lorsqu'ils feront de bonnes performances. Première ligue avec Florent pour parler de deux joueurs. Alors un qui a déjà fait quelques matchs et qui est plutôt bon, en tout cas qui commence à stater, et un autre qui a signé là il y a quelques heures, quelques jours, peut-être un jour, officiellement à Tottenham. James Rodriguez et Sergio Reguilón, deux anciens de la Liga, Florent, qui sont arrivés de la Liga cet été. Par qui veux-tu démarrer?
Bon, je vais commencer par James Rodriguez, qui a marqué son premier but ce week-end et donné sa première passe décisive aussi, d'ailleurs, lors du large succès d'Everton face à West Brom. Un succès un peu en trompe-l'œil, même si les XG sont en leur faveur. C'est au prix d'une première mi-temps très compliquée et d'un carton rouge de Kieran Gibbs qui leur a facilité la tâche. Mais oui, bah, James Rodriguez, tout simplement parce qu'il, je vais faire assez vite, parce qu'il retrouve Carlo Ancelotti, qui a été sans doute l'entraîneur avec lequel il a été le plus performant en club au Real Madrid, et peut-être même tout court, le plus performant en club tout court, et qui a commencé là Everton à l'utiliser côté droit, sur l'aile droite d'une attaque avec Richarlison à gauche et Calvert-Lewin en pointe, pour qu'il puisse rentrer sur son pied gauche et frapper. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter, je pense que avec le temps de jeu qu'il va avoir à Everton, c'est un joueur qui peut tout à fait terminer la saison avec peut-être 15 buts, 15 passes D, ou 12 buts et 18 passes décisives, parce qu'en plus il peut tirer les coups de pied arrêtés et en poser quelques-uns, sachant qu'il y a quand même quelques joueurs de tête dans cette équipe d'Everton, entre Calvert-Lewin devant ou Yerry Mina un peu plus bas. Donc voilà, je pense qu'il y a tout pour qu'il fasse une belle saison. Maintenant, jusqu'à quel point peut-il porter Everton vers le haut du classement? Ça, c'est une autre question, sachant que collectivement, il y a une défense qui peut poser question. Mais il y a un vrai potentiel offensif et James sera au cœur de tout ça, et sa capacité à faire la différence devrait lui permettre de revivre un petit peu après pas mal de saisons où c'était jamais un indiscutable dans ses différentes équipes.
Et ton autre joueur, c'est donc le futur latéral gauche, le nouveau latéral gauche de Tottenham, qui avait hésité entre Ben Davies et Danny Rose sur les saisons précédentes. Quand dans le documentaire d'Amazon, on voit très bien qu'entre Mourinho et Danny Rose, ça ne passe pas. Et là, d'un coup, Sergio Reguilón, un des meilleurs latéraux gauches de la saison dernière en Liga, qui était à Séville mais qui appartenait au Real, est arrivé. Qu'est-ce que tu attends de lui, du coup? Pourquoi le suivre cette saison avec les Spurs?
Bah, voir si Mourinho va le pourrir. Non, ça c'est très gratuit. Non, mais Reguilón, ouais, excellent avec le FC Séville, excellent lors du Final 8 aussi. Joueur de plus en plus complet, il lui manquait des choses un petit peu défensivement jusque-là. Mais je trouve qu'avec Séville, il a quand même fait une saison très pleine et très intéressante des deux côtés du terrain. Donc voilà, Est-ce qu'il franchit un cap en passant de Séville à Tottenham? Je ne sais pas. Maintenant, il va arriver dans un contexte différent avec beaucoup plus de gros matchs à jouer, de gros adversaires en face. Il y en aura pas plus. Enfin, il y en aura plus de deux dans la saison avec le Barça et le Real en face. Là, il y aura un peu plus de gros matchs à jouer. Donc voilà, dans ce nouveau contexte, est-ce que Mourinho va le laisser monter à sa guise et participer offensivement comme il aimait beaucoup le faire à Séville, où là par contre c'était demandé par Lopetegui, c'est un des principaux animateurs du couloir gauche. Voilà, simplement la question, passer de Lopetegui à Mourinho, est-ce qu'il ne va pas perdre une partie de ce qui faisait sa force à Séville parce que Mourinho lui demandera de faire autre chose? Voilà la question qui peut se poser. Après sinon, s'il arrive à rester aussi libéré en Première Ligue, je pense que ça sera une très belle acquisition pour Tottenham.
Tottenham qui a aussi officialisé Gareth Bale, qui aurait pu être un de nos joueurs à suivre, mais bon, on verra déjà quand il jouera.
C'est ça.
Et puis, on va sans doute beaucoup plus en parler au cours de la saison que de Sergio Reguilón. Christophe, tes deux joueurs qui d'ailleurs viennent également de Liga, ils ont signé aussi cet été, ce sont deux recrues. Ferran Torres à City, Rodrigo à Leeds. Je vais te proposer de commencer par Rodrigo parce qu'on l'a déjà vu jouer, alors que Ferran Torres, je ne suis pas sûr qu'on l'ait vu sous les couleurs de City en match officiel.
Oui, Rodrigo est un peu la même logique sur mes joueurs Ligue 1, à savoir un joueur dans lequel je crois et un où j'ai quelques doutes, mais où j'espère que ça va fonctionner. Les doutes, c'est pour Rodrigo. Très intéressé de suivre ce qui va se passer, mais pour l'instant, c'est pas convaincant. Alors, j'ai juste aperçu le match de Coupe de la Ligue où il a joué et où Leeds a été éliminé par Hull, qui est en troisième division, donc c'est un petit peu compliqué au tir au but. Mais sur sa première entrée en jeu en championnat face à Liverpool, il ne joue que quelques minutes, il concède un penalty et globalement, l'échantillon était assez faible, hein, mais il n'avait pas apporté grand-chose. Et sur le match de ce week-end, la victoire 4-3 face à Fulham, il joue au dernier moment en tant que numéro 10, en gros, en tout cas en milieu offensif, animateur de jeu, parce que Pablo Hernandez se pète à l'échauffement. Et il ne pèse pas du tout, mais vraiment, quand je dis qu'il ne pèse pas, c'est-à-dire qu'à un moment, je me demandais vraiment s'il était sur le terrain, ce qui est assez compliqué quand même, parce qu'en plus, il avait beaucoup d'occasions, et tous les circuits de passe, alors, ils sont assez mécanisés, et lui est nouveau, alors que les autres se connaissent bien, donc c'est logique d'avoir moins d'habitude avec lui. Mais c'est-à-dire que tu pourrais chercher la zone et te dire, bon, que ce soit Rodrigo ou Pablo, peu importe, le joueur est libre là, à tel endroit, on va le trouver. Sauf que Rodrigo savait pas se positionner. Alors c'est pas totalement son poste, même si c'est un attaquant fuyant qui peut être capable, il jouait parfois couloir sur certaines phases de jeu, avec l'Espagne, couloir droit notamment, il s'est dézoné, donc là-dessus il n'y a pas forcément de problème sur son profil. Mais j'ai l'impression que qu'il n'est pas suffisamment neuf, pas le gabarit, l'impact physique, façon de parler, mais en tout cas cette capacité à peser un peu que peut avoir un Bamford, et qu'il n'est pas assez créateur pour jouer un cran plus bas et faire la dernière passe, si tu veux le faire entrer dans la rotation pour être le remplaçant de Pablo Hernandez. Donc du coup, c'est un super joueur hein, pour Leeds, c'est une top recrue, c'est quand même un joueur assez important qui est entre titulaire et remplaçant, mais qui a un vrai coup à jouer avec la sélection espagnole. Donc chez un promu de première ligue, c'est top.
Il signe à Chelsea il y a un été de ça en plus, Christophe. Enfin, il était annoncé top 4 en première ligue.
Et pour un montant bien supérieur. Ouais, hein. Ouais, non, c'est il a pas réussi une super dernière saison, notamment au niveau du réalisme, donc du coup ça a un peu plombé sa cote, mais c'est un super coup pour Leeds. Mais se pose la question quand même de savoir quel est le type de joueur qui convient aux équipes de Marcelo Bielsa comme numéro 9, parce que les meilleurs c'était plus Bamford, Gignac, Llorente, et un Rodrigo qui sait faire jouer mais qui aura plus de mal à prendre la position, qui sera fuyant et qui du coup pourra un peu empiéter sur celle des autres plutôt que de rester en pointe. Ça peut poser souci, donc j'ai hâte de voir comment Bielsa va réussir à l'intégrer ou non, parce qu'individuellement c'est largement supérieur à Bamford, mais il faut aussi réussir à trouver des habitudes de jeu dans ce qui est quand même assez précis hein, du côté de Leeds.
Après, il y a quand même une donnée, c'est qu'il y a une seule fois où Rodrigo a dépassé les 8 buts en championnat, c'était 2017-2018, il avait fini avec 16 buts, la grosse saison qu'il avait propulsé en équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde. Mais depuis, les saisons sont un peu plus difficiles. Alors, il est dans le cadre de Valence, qui est pas toujours facile, parce que c'est un club qui change de direction et de chef tous les 6 mois. Mais voilà, c'est pas forcément la même régularité devant le but qu'un numéro 9 classique, ou qui aurait été plus référencé sur les années précédentes. Ton autre joueur, donc, Ferran Torres, venu lui aussi de Valence, parce que c'était la grande braderie à Valence cet été. Bon, lui, pour le coup, ça a rapporté pas mal d'argent, qui a signé à City. Où est-ce que tu l'attends? Dans quel rôle? Est-ce qu'il peut prendre la place d'un des titulaires habituels de City? Dis-nous.
Bah justement, je sais pas trop quel est le rôle dans lequel va le situer Pep Guardiola, et c'est pour ça que je trouve le mariage intéressant. Je pense que tu le mets dans, je vais pas dire n'importe quelle équipe, mais dans beaucoup d'équipes. Je l'imagine cantonné à un rôle d'ailier droit. Sauf que à Valence, alors déjà, ils pouvaient parfois être dans l'axe et ils partaient de relativement bas parce que le 4-4-2 bloc médian où ils voulaient généralement à droite faisait que mécaniquement, c'était pas comme les équipes de Guardiola qui donnent des 1 contre 1 aux ailiers à 25-30 mètres du but adverse. Là, ils partaient de relativement bas, donc il avait des courses assez longues à faire et il était capable de montrer une créativité où tu peux l'imaginer. Alors évidemment, c'est l'évolution maximale, hein, mais où tu peux l'imaginer, pourquoi pas, parce que là, il a que 20 ans. Être capable un jour d'assumer un rôle à la De Bruyne, de délier milieu offensif, voilà, mais placer un cran plus bas, qui au final va occuper la position moyenne de ces joueurs-là, mais qui, dans l'absolu, quand tu couches ça sur la feuille de match, a un rôle de relayeur numéro 8 dans le demi-espace. Donc, est-ce que Ferran Torres va bousculer la hiérarchie à droite? Est-ce que tu vas le mettre à gauche, selon si tu veux l'aligner en faux pied, en bon pied? On sait que Guardiola a eu plusieurs évolutions dans ses réflexions au fil des années. Donc ça, c'est effectivement la première interrogation sur le joueur qu'il est actuellement et sur celui qui peut devenir. J'avoue que alors je suis très client du joueur, même si l'humain a l'air encore un peu immature. Mais j'ai envie de me hyper et de croire dans un scénario où il peut devenir, pourquoi pas, un nouveau David Silva, pourquoi pas un nouveau Kevin De Bruyne, d'ici 6 mois, un an et demi, au moins être capable de remplir cette fonction-là contre des équipes plus faibles. Parce que, contrairement à certains joueurs de débordement, de percussion, je vois une vraie capacité à jouer entre les lignes, dans un rôle axial, et une vraie créativité par la passe. Sachant qu'il a encore l'explosivité de ses jeunes années, là où un David Silva n'avait plus du tout ça, et il lui restait, on va dire, cette capacité de faire la bonne passe et son intelligence de jeu. Je pense que ça peut être la bonne surprise de cette équipe de City, et pas forcément là où on l'attend le plus, comme voilà, dans un rôle d'ailier traditionnel.
On enchaîne et on passe à la Serie A. Ah non, avant ça, des mentions quand même. Des mentions sur la Première Ligue. Je regarde vos messages, je suis pressé, j'ai envie qu'on y ait du rythme. Et vous avez parlé de Dani Ceballos à Arsenal, de Denis Van de Beek United, qui a marqué son premier but en Première Ligue. Christophe, tu dois être content.
Oui, mais je sais pas comment il va être utilisé, comme je sais pas comment Ceballos va être utilisé. Donc là aussi, à voir.
Oui, à voir aussi si Solskjaer va vraiment passer encore cette saison, ou s'il y aura pas de miracle cette fois, parce que ça commence à durer cet intermède un peu bizarre. Et Florent, est-ce que tu avais d'autres mentions en Première Ligue? Je suis en train de lire la longue liste que tu m'as envoyée, mais je n'en vois pas. Non, tu n'avais pas d'autres mentions en Première Ligue. C'était pas là que tu étais passionné. Donc je parlais de Serie A, et on va enchaîner avec la Serie A. Avec toi, Florent, tu avais deux noms à nous proposer. Un qui a fait pas mal l'actu, c'est Sandro Tonali à l'AC Milan. Un qui est parti de Première Ligue un peu dans l'anonymat, c'est de Première Ligue. Je sais même plus à qui il appartenait, à Chelsea, à la Roma.
Ouais, c'est ça. Chelsea, ouais.
Chelsea, je crois, mais prêté à la Roma. Davide Zappacosta qui a marqué. Bon, bah, on va démarrer par Tonali, et puis on enchaînera avec Zappacosta. Tonali, le successeur théorique, en termes de coupe de cheveux en tout cas déjà, de Pirlo. Est-ce qu'il va réussir à reconstruire quelque chose dans ce Milan-là? Milan a gardé Zlatan, a pris Tonali, a toujours Donnarumma. Est-ce qu'on n'est pas en train de trouver une colonne vertébrale, au moins pour cette saison? Parce qu'Ibra non plus va pas jouer jusqu'à 44 ans.
Oui, et surtout, Milan a aussi gardé Bennacer. Oui. Et en fait, moi, la grande question que je me pose, c'est que Bennacer s'était posé comme le premier relanceur de ce Milan sous Pioli, et même avant, il s'était vraiment imposé comme la plaque tournante de l'équipe. Et avec l'arrivée de Tonali, comment Pioli va gérer les deux, les temps de jeu des deux? Est-ce qu'il va les mettre en concurrence? Est-ce que ce sera l'un ou l'autre? Ou est-ce qu'il va les associer dans un double pivot? Ou est-ce que Bennacer va être amené à jouer plus haut, puisqu'a priori Tonali est vraiment un successeur, comme tu le disais, à Pirlo? Donc il y a une vraie question à ce niveau-là. Qui va être le chef d'orchestre derrière Ibra? Est-ce que ça va être Bennacer qui va garder ce rôle-là, ou est-ce que c'est Tonali qui va le prendre? Et dans ce cas-là, est-ce que Bennacer va faire autre chose sur le terrain pour garder sa place dans le 11? Là, j'ai regardé sur leur premier match. C'était en leur premier match officiel, évidemment, c'était en Ligue Europa face au Shamrock Rovers, où le Milan s'est imposé grâce à des buts d'Ibra et de Çalhanoğlu, et c'est Bennacer qui avait débuté le match, et en fait Tonali est entré en jeu mais à sa place. Donc voilà, je me pose simplement une question autour de Tonali et de Bennacer: qui va prendre le pas sur l'autre et va être la plaque tournante, le référent au milieu de terrain? Et dans le cas où il y ait un référent, que va faire l'autre? Est-ce qu'il va perdre sa place, ou est-ce qu'il va changer un petit peu de registre, jouer un peu plus haut, se projeter un peu plus peut-être? Voilà, qui va faire quoi entre les deux? Ça peut être un autre point intéressant sur l'évolution du Milan AC. Et tant que j'y suis, Raphaël, j'enchaîne directement avec mon deuxième joueur, Leonardo Spinazzola, le latéral gauche de la Roma, qui fait partie de cette longue lignée de latéraux italiens qui sont capables de jouer à gauche ou à droite. On peut citer De Chilio, on peut citer Darmian, on peut citer Zappa Costa, qui ont tous eu des parcours assez chaotiques, d'ailleurs, sur la dernière décennie. Ils ont tous éclos, j'ai l'impression, aux alentours des années 2010, sans jamais vraiment s'imposer et trouver une place dans un très gros club. Spinazzola aurait pu, puisqu'il a été formé à la Juve, qu'il a prêté un peu partout en Italie, et qu'il a, a décidé de le vendre la saison dernière à la Roma. Quand on voit où en est la Juve en termes de latéraux aujourd'hui, on peut se poser des questions sur ce choix. Mais bon, passons et parlons de Spinazzola, puisqu'il sort quand même d'une performance que j'ai trouvé impressionnante face aux Pays-Bas avec la sélection italienne, puisque c'est une perf avec 10 dribbles tentés, 2 passes clés, 5 ballons touchés dans la surface adverse. Donc offensivement, un joueur très très percutant et qui a posé beaucoup de problèmes aux Néerlandais sur ce match. Et donc, c'est simplement, après une telle performance, voir s'il va réussir à confirmer lors de cette saison avec la Roma, où c'est un joueur qui n'a jamais vraiment réussi à être productif sur toute une saison. Son record de passes décisives pour un latéral, c'était avec l'Atalanta en 2016-2017, et ce n'était que 5 passes décisives. La saison dernière, il met un but et 2 passes décisives en championnat avec la Roma, auquel on peut ajouter un but aussi en Ligue Europa. Donc voilà, est-ce qu'il va avoir ce déclic et cette capacité à apporter beaucoup plus en tant que latéral, ou est-ce qu'il faudra peut-être attendre l'Euro 2021 de l'Italie, où il a l'air libéré dans le système mis en place par Mancini et beaucoup plus percutant. Donc voilà, à voir, joueur à suivre au cours de la saison, et s'il fait rien au cours de la saison, il fera partie sans doute de mes joueurs à suivre lors du prochain Euro.
Merci Florent pour ces deux noms. Christophe, tu vas enchaîner avec deux joueurs qui ont bougé de club cet été également. On a beaucoup de recrues depuis tout à l'heure. Le premier, c'est Kulusevski, qui a marqué d'ailleurs avec la Juve pour la première victoire de la Juve de Pirlo. Parle-nous un peu de ce joueur.
Qu'est-ce qu'on peut dire déjà qu'il est plutôt adroit face au but. On l'a encore vu là. Je suis en plus en train de regarder, au-delà d'avoir vu les highlights, le résumé. Quelques heures avant d'enregistrer, là, je suis en train de voir le replay du match, et pour le coup, c'est quand même vraiment intéressant ce que fait la Juve de Pirlo, en passant à 3 avec ballon, en faisant descendre un joueur quand ça ne l'a pas, avec pas mal de permutations sur les phases offensives, beaucoup de mouvements. C'est très loin de la rigidité qu'il pouvait y avoir du côté de Sarri, et j'ai l'impression que ça correspond un peu mieux à cet effectif-là, d'avoir Kulusevski qui va beaucoup demander la balle à l'intérieur, notamment, tu pourrais l'imaginer se contenter d'être genre à droite, il revient sur son pied gauche. Là, il apporte pas mal au cœur du jeu, je trouve. Il se déplace assez bien, il combine assez bien. Mais surtout, au-delà de donc cette bonne qualité face au but, alors il peut aussi faire des passes. Hein. Il était limite l'un des seuls joueurs de foot à Parme avec Gervinho l'an dernier et Cornelius, qui se révélait être à nouveau un bon joueur après son intermède bordelais assez compliqué. Il a une VMA assez énorme, et il est assez polyvalent, il est encore loin d'être un joueur fini à son âge. Il a 20 ans si je dis pas de bêtises, donc je pense que ça peut être une vraie bonne surprise à la saison de la Juve. Tu vois, McKinney par exemple a été aussi très intéressant sur ce match-là, mais je vois moins de possibilités de durer dans l'entrejeu. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais disons que son passé est un peu plus délicat, un peu moins emballant que celui de Kulusevski, qui aura une concurrence intéressante, notamment avec Dybala. Mais Kulusevski qui marque un but un peu, alors sur le côté, mais un peu spécial, Toni Kroos là, un plat du pied enroulé. Je pense que ça peut être l'un des rares joueurs qui vient à la Juve après avoir performé dans un club de niveau inférieur et qui réussit à s'imposer, parce qu'il y a eu pas mal d'échecs de joueurs qui sont ensuite partis en prêt, en copropriété, des choses un petit peu bizarres. Là, je vois une entente possible avec les autres offensifs qui pourrait durer simplement, enfin pas que simplement, mais disons le fait qu'il ait une VMA énorme, une capacité à répéter les efforts à haute intensité supérieure à 95% des joueurs à son poste en Serie A, voire même en Europe. Je pense le rend plus intéressant qu'un Bernardeschi par exemple, qui fait toujours la même chose mais qui en plus n'a pas ce volume de jeu là sur le plan défensif pour récupérer les ballons assez haut et s'installer dans le camp adverse, qui me semble être la philosophie de Pirlo, de pas vouloir vraiment défendre quoi, d'être très régulièrement dans le camp adverse pour ensuite pouvoir construire des attaques entre guillemets au feeling avec beaucoup de fluidité.
Ouais, là c'était un 3-4-1-2 avec Ramsey derrière Kulusevski et Ronaldo. On peut imaginer Dybala à la place de Ramsey derrière les deux.
On peut imaginer. Après, tu peux faire plein de choses. Hein. Tu peux mettre Dybala un cran plus haut et Kulusevski en tant que numéro 10. Ça dépend aussi où est-ce que tu veux récupérer les ballons. Mais là, c'était c'était pas fixé en fait, hein. c'était assez fluide quand même. Donc j'ai envie de dire que entre le tableau noir et ce qui se passe sur le terrain, ça peut être trois joueurs sur la même ligne. Je pense pas qu'il faille raisonner en termes de 10 ou de 9, mais sur la logique, même si tu perdrais un référent récupérateur de ballon en Ramsey qui a fait un vrai bon match, les jours où tu veux mettre plus de créativité, tu peux installer un deuxième joueur qui ne court pas trop sans ballon en Dybala et malgré tout, je pense garder une certaine sécurité.
Autre joueur qui est parti de son club pour aller dans un grand club italien, c'est Victor Osimhen qui a fait Lille-Naples. Alors on ne sait pas vraiment pour quel montant, puisque les sources sont contraires. Mais il a commencé sur le banc, je crois, pour le premier match de la saison de Naples. J'ai pas l'impression qu'il était titulaire. Donc il est rentré en cours de jeu. Christophe, tu me confirmeras ça ou pas? Je suis en train de vérifier. Victor Osimhen, ouais, rentré à la 61e pour remplacer Diego Demme. Il n'a pas marqué. Il n'a pas fait de passe dé encore, mais il n'a joué que 30 minutes. Là, c'était Mertens en pointe, Insigne à gauche et Lozano qui m'avait vraiment enflammé quand il était au PSV et qui derrière ne fait plus grand-chose, qui était dans les trois de devant. Ce serait quoi? Ce serait un Osimhen qui passerait neuf et un Mertens qui basculerait un peu plus bas sur le terrain à terme?
Je pense. Alors après, tu peux imaginer pas mal de choses. Hein. Tu peux imaginer des attaques à deux ou autres. Mais là, il rentre, il y a 0-0. Bon, ça finit à 2-0. Il est pas sur le deuxième but, qui est une mauvaise relance adverse récupérée par Mertens, même s'il fait un appel qui peut un peu embarquer la défense. Mertens l'aurait mis quand même. Et sur le premier, il va au duel, il perd son duel, mais il force le défenseur à dégager dans l'axe et ça fait but juste derrière. Donc il est quand même un peu impliqué sur le premier. Mais surtout, c'était dans la lignée de sa bonne préparation, voire très bonne préparation. Il a marqué beaucoup de buts. Alors en face, c'était pas Barcelone, hein, c'était des clubs plus mineurs, mais il était déjà dans le rythme. Et ça confirme ce qu'on voyait de lui à Lille, à savoir qu'il a une éthique de travail qui fait qu'il est tout le temps à fond. Lui, pour le coup, c'est pas le genre à arriver sur des reprises avec quelques kilos en trop. C'est même presque l'excès inverse, trop de travail. Et je pense que, d'ailleurs, tout le monde du côté de Naples, son entraîneur, ses partenaires ont été hyper élogieux envers lui. Je pense qu'il apporte quelque chose de vraiment complet, là où un Lozano, tu lui enlèves la profondeur, c'est un petit peu plus compliqué. Osimhen, il n'a pas forcément ce jeu de remise, ce jeu de déviation, mais ses partenaires, notamment Mertens, autour long. Et lui, par contre, il va faire beaucoup d'appels, il va faire beaucoup de courses. Il va aller au duel, parce que même s'il les perd, il va tout le temps au duel. Il va faire beaucoup de courses au pressing. Enfin, en gros, son seul manque, qui est pour moi sa capacité à faire la dernière passe, à jouer avec ses partenaires, va pas du tout être pénalisant à Naples, où il sera souvent en bout de chaîne et où il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont capables de faire ce jeu au sol. J'imagine franchement de plus en plus, alors que j'ai des mini réserves sur lui au début, enfin en tout cas je le voyais pas forcément atteindre ce niveau-là, je lui imagine assez facilement une saison à 18-20 buts et je pense que ça va être une, alors peut-être pas une révélation, mais une confirmation au plus haut niveau, encore plus qu'à Lille, parce que j'ai l'impression que Naples sait vraiment comment l'utiliser.
Vos mentions en série également, Christophe, tu avais Sandro Tonali, tout comme Florent, tu as Achraf Hakimi aussi, qu'on va suivre pendant la saison de toute façon, parce que l'Inter jouera le titre et sera engagé en Ligue des Champions, donc on aura l'occasion d'en parler. Florent, je suis en train de regarder de ton côté s'il y a d'autres joueurs en Serie A. Oui, il y a peut-être Per Karsdorp, selon le club qu'il va rejoindre. Je crois que ça en parlait à l'Atalanta, notamment.
Ouais, a priori, le deal est tombé à l'eau pour des raisons de commission. J'aurais été très curieux de le voir aller là-bas, parce que c'est un joueur, c'est un peu la One Match Wonder qu'on avait découvert un soir, je crois, de Pays-Bas-France, il me semble, où ça remonte un petit peu maintenant. Et puis ensuite, il a signé à la Roma. Je crois qu'il s'est fait mal au genou. Il a dû se faire les croisés lui aussi. Et depuis, il a beaucoup de mal à redémarrer. J'aurais été curieux de le voir à l'Atalanta. Mais a priori, le deal est tombé à l'eau pour des sombres histoires de commission. Donc à voir s'il bouge ou pas d'ici la fin du mercato.
C'est quand même, si c'est ça, c'est quand même dommage de rater un transfert à l'Atalanta pour des trucs de commission, tu vois.
Mais surtout qu'il aurait les qualités. En tout cas, celui qu'on avait vu sur un match avait vraiment les qualités pour s'éclater dans un système tel que celui de l'Atalanta.
Bah, il aurait remplacé Castagne, il aurait été à la bagarre avec Attebourg pour jouer à droite.
C'est ça.
Ouais, ça aurait été plutôt sympa pour lui, tant pis. On verra bien où il ira, et tu avais aussi, Achraf Hakimi, Florent, forcément. Mais bon, c'était peut-être un peu trop facile d'en parler, donc on attendra des grosses perfs pour revenir sur lui. On va en Liga, Christophe, où tu as deux joueurs qui sont censés jouer le haut du tableau. Mais bon, avec ces deux clubs-là, en ce moment, on ne sait jamais. Carlos Soler à Valence et Trincao à Barcelone. Commençons par Soler, ça te permettra d'évoquer Valence, et puis après on ira sur Trincao, qui a été plutôt intéressant lors de la prépa, notamment dans ses déplacements et sa capacité à se revenir à l'intérieur depuis son pied gauche, à voir comment ça va évoluer avec Messi. Mais dans un premier temps, Carlos Soler à Valence, effectif dépeuplé, où est-ce qu'il va jouer?
Bah justement, a priori, j'imagine, bon là il n'a pas encore débuté, mais il se remettait d'un problème physique, j'imagine que ce sera le deuxième milieu de terrain à côté de Kondogbia, pour remplacer Parejo qui est parti. J'imagine que si Parejo est parti, c'est quand même pour que Soler, qui est quand même en, alors qui a du temps de jeu depuis quelques années, mais qui a jamais totalement pris la dimension que tu pouvais lui imaginer. Alors il a que 23 ans, hein, donc il a encore la capacité de progresser, mais il fait partie de ces jeunes Espagnols qui finalement sont pas forcément meilleurs à 22 qu'à 19-20 ans. Et il doit prendre ce rôle là pour s'affirmer. Alors sur les deux premiers matchs de la saison, c'était Vicente Esquerdo. Qui a joué ce rôle de numéro 8, on va dire, puisque Kondogbia, même s'il se projette, fait quand même plus des allers-retours, mais il fait un peu moins la dernière passe que le joueur à côté, qui va être un 8, mais un peu meneur auxiliaire depuis l'axe. Donc c'est vraiment le poste, sachant qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs, de jeunes qui émergent du côté de Valence, t'as Lee Kang qui se retrouve en tant que deuxième attaquant. Il y a aussi un jeune anglais dont je perds le nom. Tu m'as un peu pris par surprise en inversant l'ordre entre Flo et moi, mais un jeune anglais de 17 ans qui était titulaire dans le couloir droit. Mais savoir comment, si ça sera bien Soler qui jouera le rôle de Parejo, et comment est-ce qu'on s'en sortira, parce que c'est, enfin, dans un 4-4-2 comme ça, c'est limite le rôle le plus important, parce que si t'as pas ça, quel circuit de jeu tu crées, d'où vient ta créativité, est-ce que t'es capable d'avoir aussi une force sur coup de pied arrêté? Donc vrai enjeu, parce que je pense que s'il est pas au niveau, lui ou un autre, hein, mais si t'as pas vraiment de créateur au sein de ton double pivot, je pense que tu termineras plus 14e que 7e.
Oui, j'ai changé l'ordre parce que j'aime vous surprendre. D'ailleurs, je vais partir et rester avec toi, Christophe, avec Trincao, le joueur venu de Braga qui a signé à Barcelone. Alors, il a signé, je crois, en janvier pour rejoindre le club cet été. Donc, c'est un peu passé à travers parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités ensuite à Barcelone. Puis Messi a monopolisé l'attention médiatique. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce début de préparation de Trincao, ce début de saison de Trincao? Quel joueur c'est? Quel niveau il a à peu près? Et dans quel rôle il peut venir jouer? Parce que le gaucher qui aime repiquer intérieur, quand il y a Messi dans le même club, c'est toujours compliqué.
Bah justement, j'en sais rien. Donc déjà, quand même cité, c'est Younous Moussa, qui est né à New York, qui joue à Valence, qui est cet Anglais de 17 ans qui est titulaire dans le couloir droit. Justement, Trincao, je connais pas trop, donc j'ai envie de voir ce que c'est. Alors je suis désolé, ça apporte pas une expertise colossale au podcast, mais il y a pas grand monde qui m'excite en Liga cette saison. C'est-à-dire soit ce sont des valeurs sûres qu'on connaît, soit des joueurs qu'on ne connaît pas. Enfin voilà, il y a pas énormément de choses. Limite les Espagnols qui nous intéressaient le plus, ils sont partis du côté de l'Angleterre. Mais c'est vrai que Trincao, ça pose quand même la question, parce que c'est pas le jeune à la Kerrison qui est pris apparemment juste pour faire des deals d'agents, ou qui n'a pas forcément le niveau que tu vas prêter et qui va pourquoi pas un jour pouvoir te servir, mais pas sûr. Là, il a quand même, c'est quand même un international, il a quand même un vrai niveau qui peut lui permettre d'entrer assez vite dans la rotation. Mais je me pose la question de son utilisation, et je me pose la question, pour élargir un peu, tu vois, à Valence, c'était en gros, d'où vient ta créativité? Est-ce que tu restes en 4-4-2, etc.? Comment est-ce que tu construis ton effectif? Du côté du Barça, c'est en fait, comment est-ce que tu vas jouer? Est-ce que tu restes sur un 4-2-3-1? Et si oui, en gros, quelle sera ton animation générale? Ricky Puig est visiblement poussé vers la sortie, parce que c'est sûr que dans un milieu à deux, c'est peut-être un petit peu moins pertinent que dans un milieu à trois, notamment vu son manque de volume de jeu dès qu'il s'agit de faire autre chose que presser à la perte. Mais Trincao, est-ce qu'il aura l'opportunité de jouer? Quelle sera ta construction d'effectifs sur le plan offensif? Est-ce que tu auras Griezmann en 9, Messi en 10? Est-ce que tu as la place pour d'autres gauchers? J'ai pas grand chose à t'apporter sur Trincao le joueur, si ce n'est qu'il est, de ce que j'ai vu notamment des bouts avec la sélection et en championnat, suffisamment bon pour intrinsèquement avoir plus un rôle à jouer que par exemple Braithwaite. Mais je me pose la question du profil et de, en gros, que va faire Koeman avec cet effectif.
Donc je vais juste laisser Florent enchaîner avec ces deux joueurs. Il y en a un dont je n'ai jamais entendu parler, donc on ira dans un deuxième temps sur lui, et un que tu voulais évoquer depuis longtemps, Florent, t'avais même voulu en parler la semaine dernière, c'est David Silva, qui a joué son premier match avec la Real Sociedad, qui est entré en cours de jeu contre le Real Madrid, match qui a fini à 0-0, et d'ailleurs qui a joué contre le joueur à qui il succède, Martin Odegaard, qui était lui du côté du Real cette fois.
Ouais, David Silva, peut-être l'un des plus beaux coups de l'été de la Real Sociedad, avec un, malgré ce mercato très calme, il était sur le point de s'engager à la Lazio, et puis du jour au lendemain, au lieu de l'officialisation vers la Lazio, on a David Silva à la Real Sociedad. Donc très très beau coup de la Real, après avoir perdu en effet Martin Odegaard, parti au Real Madrid, bah, c'est simplement de voir, et j'espère pouvoir aller le voir en vrai, au stade, puisque je suis pas forcément très très loin d'Anoeta. Donc j'attends beaucoup de David Silva, de voir ce qu'il peut apporter à cette équipe, évidemment toute sa créativité, mais de voir comment il va s'associer à Oyarzabal et à Ishak, notamment devant. Est-ce qu'il va être numéro 10 dans un 4-2-3-1? Est-ce qu'il va jouer 8 comme il jouait du côté de Manchester City et être un peu plus installé dans le half space gauche qu'il adorait tant à Man City. Donc ouais, il y a la Real Sociedad, il y a quand même beaucoup de jeunes talents. Il y a aussi Mikel Merino un cran plus bas qui devrait être peut-être le principal pouvoireur de ballon à David Silva un peu plus haut entre les lignes. Donc voilà, il y a de quoi se faire plaisir pour finir sa carrière pour David Silva à 34 ans, faire progresser des jeunes et être le chef d'orchestre de cette Real qui était séduisante l'an dernier et qui a tout pour l'être encore cette année. Voilà, en espérant évidemment pouvoir aller le voir à Anoeta.
Et ton autre joueur, que vraiment je ne sais pas qui c'est, c'est-à-dire que ni le prénom ni les noms me disent, alors je connais le club, je ne savais pas qu'il y était, c'est Pervis Estupinan.
Ouais, c'est ça.
Qui joue à Villarreal, dans le Villarreal d'Unai Emery. C'est pas forcément lui à qui on pense quand on considère la saison de Villarreal, parce qu'il y a eu des recrues plus clinquantes. Est-ce qu'il était déjà là? Est-ce qu'il arrive au club? Tu vois, par exemple, je suis complètement perdu.
Alors il vient d'arriver au club. Ouais, il arrive d'Osasuna où il était prêté par Watford. C'est un joueur qui a signé à Watford, je crois, en 2016 ou 2015, et qui a été prêté quasiment tous les ans après. Je me demande même s'il a joué un seul match avec Watford, j'en suis même pas sûr. Et je vérifie tout de suite, et en effet, non, il a été prêté à Grenade, prêté à Almeria, prêté à Mallorca et prêté à Osasuna, et là il signe à Villarreal.
Ah, c'est le latéral tricoté là, je crois, c'est ça, non?
Exactement, c'est le latéral tricoté, latéral équatorien, qui la saison dernière, lors des rares matchs que j'ai pu voir d'Osasuna, était à chaque fois sans doute le meilleur joueur de l'équipe, ou en tout cas un des plus performants. Latéral qui réussit quand même 5 passes décisives la saison dernière avec Osasuna, qui n'était pas forcément le club le plus expansif de Liga, je pense que Christophe pourra confirmer à ce sujet.
Ouais, c'est pas le pire, mais quand ça pressait pas, c'était compliqué.
Et du coup, voir Estupinan débarquer dans une équipe dirigée par Unai Emery, qui, quand il a construit des projets intéressants, se basait quand même pas mal sur des latéraux qui pouvaient monter, qui pouvaient beaucoup participer offensivement. Je me dis que pour sa progression personnelle, ça peut être vraiment la saison de l'éclosion et de l'explosion dans un club qui risque de jouer le premier tiers du classement.
Pervis Estupinan, donc on suivra sa saison du côté de Villarreal. Il y aura d'autres joueurs à suivre. On aurait pu parler de Kubo dans les joueurs à suivre. Bon, là, on connaît déjà un peu plus. Vos autres mentions en Liga, il y avait Pablo Maffeo, Christophe?
Oui. Le joueur qui avait bien embêté Messi en le prenant en marquage individuel, l'une des pires soirées de Messi en Ligue 1 face à un adversaire direct, qui a marqué un joli but pour Huelva sur la première journée. Mais bon, c'est un choix un peu hipster, mais j'aime plutôt bien ce joueur. Et j'ai Marc Courrelia aussi à Retafe, à voir s'il passera un cap pour être, encore ajouter un peu de créativité à sa capacité à courir tout le temps et du coup aller chercher un plus gros club, ou si ça va rester le totem de Retafe, cette équipe dont il symbolise parfaitement les valeurs.
Et Florent, tu avais de ton côté deux gros noms, Frenkie de Jong, voir comment il va s'adapter cette saison et comment ça va se passer avec Ronald Koeman, qui connaît déjà un peu mieux, puisque ça fait quelques temps qu'il l'a en sélection comme coach. Et Martin Odegaard, donc, qui revient au Real Madrid cette fois pour essayer de s'imposer. Bon, on va pas en parler plus que ça, parce que c'est comme si on disait oui, faut suivre la saison de Kroos parce que c'est un bon joueur. Bon, ben, on verra bien avec ces deux-là. Il faut qu'ils gagnent leur place et qu'ils s'imposent. Mais sur le talent, il y a très peu de doutes et on se doute que ça va finir par marcher. Si c'est pas dans ce club-là, dans un autre, espérons que ce soit dans ce club-là pour la Liga qui continue, je trouve, de baisser de niveau en perdant encore pas mal de joueurs vers la première ligue. Passons à la Bundesliga, où là, cette fois, et alors il y a aussi un autre joueur que je connais très peu, donc je vais commencer par lui et par toi, Christophe. C'est Florian Wirtz à Leverkusen, qui est un de tes deux joueurs. L'autre est un peu plus connu parce que son nom a été annoncé un peu partout et je te laisserai enchaîner avec lui. Mais pourquoi ce Florian Wirtz à Leverkusen?
Alors, Florian Wirtz, parce que il sera, je pense, amené à avoir du temps de jeu. D'ailleurs, il a joué quasiment tout le match ce week-end. Alors, c'était assez catastrophique. Leverkusen-Wolfsburg. Enfin, Wolfsburg-Leverkusen, mais il a joué. Donc, du coup, ça me laisse imaginer que c'est que le début parce que je connaissais pas du tout avant la pause Covid et dès la reprise, il a été amené à jouer plutôt dans un rôle de dynamiteur de côté qui est quand même l'un des postes où on émerge le plus jeune parce que quand t'as un bon dribbleur explosif, voilà, si t'as une pas mauvaise qualité de finition, tu peux à 17-18 ans assez vite bousculer les hiérarchies. Mais ces qualités naturelles-là, donc, s'accompagnent d'une vraie capacité à être un bon joueur de foot complet. Et au final, ce qui pouvait s'apparenter, voilà, l'ailier un petit peu classique qui va revenir sur son bon pied, peut se transformer de plus en plus. Alors, il a 17 ans, hein, donc il est vraiment très jeune. Là, ce week-end, il a joué les milieux axiales. De plus en plus en rôle un peu à la Kai Havertz finalement, parce qu'il a déjà joué en pointe, il a déjà joué donc là numéro 8. Donc c'est une polyvalence qui, en plus, bon, c'est le même club, ils se sont côtoyés un petit peu, même si je sais pas à 17 ans s'il a pu faire des milliers d'entraînements avec Havertz, mais je vois vraiment, alors pas que sur sa précocité, hein, mais sur sa polyvalence, sur ce qu'il est quand même capable de faire, et à la fois dans la mentalité et simplement avec ballon, où c'est jamais totalement parfait d'un match à l'autre, mais à chaque fois il y a un peu quelque chose de différent dans la tenue du ballon, dans le fait de faire jouer, d'être plus dans la gestion du tempo, puis la fois suivante d'être à la finition, puis la fois suivante de prendre la profondeur, ensuite de jouer des 1 contre 1. Faut que ça se mette en place, faut que ça se mette, et non pas que ça se mette. Faut qu'on finisse par trouver quel type de joueur c'est, mais sachant qu'on sait pas encore quel type de joueur est Kai Havertz totalement, puisqu'il peut faire pas mal de choses, peut-être que pour lui on le saura pas non plus tout de suite, mais je préfère en parler tout de suite, j'en ai déjà parlé un petit peu sur les podcasts de la fin de saison dernière, parce que à la vitesse où il grandit, ça m'étonnerait pas que dans 5-6 mois, t'aies des premières très grosses performances et dans un an, ou peut-être deux, des rumeurs pour des transferts sur des sommes très élevées, parce que c'est un profil très complet qui, à cet âge-là, généralement, n'est pas à ce niveau de compétition-là, pas dans une équipe qui est européenne et qui joue le haut de tableau dans un grand championnat.
Même génération que Cherki, 2003. Donc les deux dans leur championnat vont pouvoir se montrer cette saison et profiter notamment des nombreux départs sur le plan offensif. Parce que j'ai l'impression qu'à Leverkusen, il y a aussi, ça parle beaucoup de départs pour, j'oublie le nom de cet attaquant jamaïcain.
Bailey.
Ouais. Vu qu'il était encore annoncé partout, donc je sais pas si ça va se confirmer ou pas. Mais lui, ça fait 2-3 ans, j'ai l'impression que Leverkusen essaie de le vendre le plus cher possible. Voilà pour Florian Wirtz. Ton deuxième joueur, Christophe, lui est un peu plus connu, mais il était aussi annoncé un peu partout. Donc est-ce qu'il va vraiment passer la saison du côté du Hertha Berlin? C'est Matheus Cunha, qui je crois a été un des noms suivis par le PSG cet été comme attaquant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Matheus Cunha qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir jouer, parce que le Hertha Berlin, on doit le voir une fois par saison quand ils affrontent le Bayern, en tout cas pour les humains normaux. Pour Christophe Kuchli, c'est un visionnage hebdomadaire.
Alors déjà que Leipzig, qui l'avait, là je pense, vendu trop tôt, sous-vendu, enfin il aurait fallu mettre une clause à mon avis, parce que depuis qu'il est parti, il montre des qualités qui sont vraiment très intéressantes sur pas mal de choses. Déjà, il a quand même une capacité à courir qui aurait pu lui permettre de durer dans cette équipe de Leipzig, même sur les mauvaises périodes. Parce que, alors, au Hertha, ça court aussi beaucoup. Hein. Je peux dire que le double pivot Darida avec Touzard, les deux qui sont dans le top 5 des kilomètres parcourus sur cette journée. Alors, Darida qui a été battu par un mec de Bielefeld, mais qui a quand même sa traditionnelle première place au niveau des intensive runs. Donc voilà, on salue le Tchèque qui a fait 2 passes décisives. Mais Cunha, au-delà de ça, qui aussi brille avec les espoirs brésiliens et qui est quand même à ses côtés, si Leipzig l'a pris, ça sortait pas de nulle part à l'époque, et sur une grosse série, là, il a marqué un but ce week-end, je crois qu'il est, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est sur 9 buts en 11 matchs, quelque chose comme ça, enfin vraiment, il a terminé sur 5 buts en championnat avec le Hertha, des grosses performances et des buts même où il prenait la balle, il allait dribbler 3-4 joueurs et il allait finir, donc vraiment vraiment une créativité, alors c'est une espèce de numéro 10, mais qui est, voilà, moderne, c'est-à-dire que dans l'absolu, au départ il est numéro 10, mais il va finir 9,5, 9, tout dépend de l'articulation des attaquants qui sont autour de lui, mais c'est vrai que c'est un profil, tu vois, on parle de Dele Alli par exemple au PSG, autant là je vois pas du tout l'intérêt, autant je trouve que Cunha peut prendre le ballon, mais il va pas forcément te le manger. Il va pouvoir combiner avec les gens autour. Il va être assez polyvalent. Et si en plus, donc là, comme il le fait en ce moment, il marque des buts, ça donne quelque chose d'assez intéressant. Là, pour te dire, le Hertha, il y a Piontek, qui est numéro 9, qui lui bouge pas trop. Mais Kounia, Luke et Bakio, deux joueurs qui courent pas mal, qui sont dans le déplacement, bah, eux, ça peut pas mal permuter sur les positions, aller se décaler dans le couloir ou autre. Donc je pense que Kounia va faire beaucoup, beaucoup de stats dans cette équipe du Hertha, dont il est l'élément créatif. Sachant que derrière, comme je disais, Touzard, Darida, ça peut faire des passes vers l'avant, mais c'est plus là pour protéger le milieu de terrain. Donc vrai joueur en pleine explosion, 21 ans, et là il est visiblement pas parti, en plus le Hertha a du pognon. S'il continue au rythme auquel il est depuis quelques temps, alors c'est pas le seul, Kramaric aussi est sur un rythme fou, il a terminé par un quadruplé, il a mis un triplé sur la première journée, mais il est plus âgé. Je pense que Kounia peut avoir une valeur qui augmente encore de 10-15 millions, même s'il n'y a pas que ça dans le foot, et surtout permettre au Hertha de jouer, pourquoi pas, les premiers rôles si tout le monde performe à son meilleur niveau.
Merci Christophe pour ce nouvel attaquant cité. On est quasiment que sur des attaquants en Bundesliga, hein, parce que là, Florent va nous parler aussi de deux éléments offensifs. D'abord, Hannes Wolf, qu'on aurait pu mentionner quand on a parlé de Gladbach tout à l'heure, mais bon, Gladbach a pas brillé offensivement contre Dortmund, donc il n'a pas été présent. Et puis, Leipzig qui continue son business avec ses antennes, et notamment avec Salzbourg, qui sont récupérés Wang pour remplacer Werner, qui est parti du côté de Chelsea. D'abord Hannes Wolf, et puis après on parlera de la machine du transfert Salzbourg-Leipzig.
C'est sympa, t'as déjà quasiment tout dit. donc pour Hannes Wolf, simplement pour la petite histoire, il a donc connu Marco Rose et René Maric, le tandem à la tête de Gladbach lorsqu'il était à Salzbourg dans les équipes de jeunes, puisqu'il est un des éléments principaux de cette équipe de Salzbourg qui remporte la Youth League en 2016 ou 2017, je sais plus exactement. Ensuite, il est transféré assez rapidement à Leipzig et malheureusement pour lui, il va se péter la jambe, je crois, lors d'un match avec l'Autriche. Je me demande même si c'est pas un match face à l'équipe de France Espoir, lors de l'Euro. Et du coup, Hannes Wolf, sa saison à Leipzig est quasi blanche. Je crois qu'il fait une poignée de matchs, 5-6 matchs maximum la saison dernière. Et là, pour retrouver un petit peu le rythme, retrouver le temps de jeu et découvrir vraiment la Bundesliga allemande, vu que l'Autrichienne, il la connaît déjà très bien, eh ben, il a rejoint les coachs qu'il avait révélés et qui avaient su parfaitement l'utiliser à Salzbourg. Donc le move me paraît plutôt intéressant pour lui. Maintenant, à voir ce qu'il va réussir à faire et à quel poste il va réussir à s'imposer. A priori, face à Dortmund, Christophe, il était annoncé ailier droit.
Alors, il était mi-ailier droit, mi-deuxième attaquant. C'était un peu sur un rôle hybride, plus axial quand même, je trouve, alors que je l'imaginais plus en 10. Mais c'est un peu comme Kulusevski avec la Juve, c'est-à-dire qu'il alternait et puis les positions n'étaient pas ultra fixées parce que la balle ne lui arrivait pas souvent.
Ouais, mais du coup là dans le système de Gladbach, c'est quelqu'un qui pourrait par exemple être installé derrière Thuram et Plea dans cette position derrière les deux attaquants. Pourquoi pas à voir comment Rose et Maric vont le relancer, parce que c'était quand même un joueur qui était un des plus sympathiques de cette génération de Salzbourg, sympathique à voir jouer évidemment, à voir évoluer, et un des plus prometteurs. Et avec une Autriche qui a quand même pas mal de joueurs intéressants, c'est un joueur qui pourrait en plus se mêler à la sélection autrichienne d'ici l'Euro s'il réalise une bonne saison.
Génération 99, Hannes Wolf, donc ça, il a encore le temps. Et la saison dernière, comme tu disais, Florent, il a joué 5 fois pour 53 minutes. Donc en effet, c'est quasiment blanche à Leipzig, qui ne compte pas sur lui. En tout cas, c'était plus simple pour lui d'aller du côté de Gladbach. Par contre, à Leipzig, on compte sur Wang, l'ancien attaquant de Salzbourg, qui avait brillé sur quelques matchs de Ligue des Champions. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui dans l'ombre de Haaland finalement, et puis il sera pas resté longtemps là-bas.
Oui, dans l'ombre de Haaland en effet à Salzbourg. Non, c'est un joueur qui traîne quand même à Salzbourg depuis pas mal de temps, hein. Il y était dès 2015, donc même lors de l'épopée de Salzbourg qui s'est terminée face à l'Olympique de Marseille en Ligue Europa, il était déjà là. Il est entré en jeu d'ailleurs avec Minamino qui depuis est parti à Liverpool. C'était souvent les deux entrants pour bousculer tout le monde dans les dernières minutes et faire les différences si ce n'était pas fait avant. Et je le trouvais déjà très intéressant à l'époque par son profil d'attaquant très mobile, très complet, qui peut-être parfois se perdre en lucidité parce qu'il va faire beaucoup d'efforts aux quatre coins du terrain, mais je pense que c'est quand même un profil très intéressant évidemment pour Leipzig de par sa polyvalence. et le fait qu'il va s'intégrer très naturellement dans le système de Nagelsmann. Va se poser la question de sa capacité à être peut-être le premier finisseur de cette équipe. Est-ce qu'il en est capable, sachant qu'à Salzbourg, c'était jamais le finisseur numéro un, puisque tu disais il y avait Hollande et il y en avait d'autres avant. Mais pour moi, oui, bah très. Enfin, c'est même pas une question de bonne pioche ou pas. Je pense qu'il va faire le boulot, mais j'arrive pas à savoir à quel point il va faire le boulot. Est-ce que c'est quelqu'un qui va mettre ses 10 buts et qui va avoir une implication sur le terrain sans faille, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de franchir un palier niveau stats et de mettre une vingtaine de buts pour Leipzig dès cette saison?
Vos autres joueurs cités en Bundesliga, Maxence Lacroix pour Christophe qui joue à Wolfsburg, Wang, tu l'avais aussi d'ailleurs, Christophe, dans tes idées, et Florent avait également, je cherche de la Bundesliga, t'avais Baptiste Santamaria qui a signé à Fribourg. On aurait pu l'imaginer un peu plus haut en Ligue 1. Finalement, il est parti en Bundesliga jouer la première partie de tableau, on va dire, Flo, à peu près, pour Fribourg et Santa Maria, en espérant que son style corresponde. C'est un transfert assez curieux, quand même, je trouve, parce que ça fait un peu comme ça, comme disaient les Américains, le lateral move. C'est-à-dire que tu vas du 8e, 9e de Ligue 1 au 8e, 9e de Bundesliga. Après, j'imagine qu'en termes de salaire,
ouais, c'est ça.
De perspective, c'est plus intéressant. Mais c'est dommage que la Ligue 1 n'ait pas réussi à le garder. Pourquoi pas jouer, je sais pas, à Saint-Etienne. Après, oui, c'est vrai que plus haut, ça aurait été compliqué, en fait.
Après, il était déjà trop cher pour un club comme Saint-Etienne, ouais. Je pense. Mais c'est simplement voir quelle évolution il va avoir sur le plan personnel. C'est un peu le move qu'avait fait Shkiri quand il avait quitté Montpellier pour signer à Cologne, il me semble. C'est un peu le même genre de move, et Shkiri a réussi à s'imposer là-bas. En tout cas, il avait fait une saison complète après son départ. Je sais pas où il en est maintenant. Et c'est voir ce que va faire Santa Maria. Après Fribourg, il y a quand même quelques Français dans le passé qui y ont réussi.
Il y a Jonathan Schmidt, la pépite de tous les suiveurs de Bundesliga depuis 10 ans. Il nous parle de lui à chaque fois pour l'équipe de France.
Donc à voir ce que va faire Santa Maria. Après, Fribourg peut servir aussi de tremplin pour lui. Et peut-être qu'il réussira à atteindre un top 6, mais ça sera pas en France.
Et sur Maxence Lacroix, dire que ça fait le 150e défenseur français.
Oui.
Où on, tu te diras, putain, mais il va jamais avoir de sélection. Alors que, bon, là, c'est un seul match, hein, mais si ça dure comme c'est parti pour son premier match avec Wolfsburg, je pense que déjà assez rapidement, il va être dans la rotation pour avoir une bonne place avec les espoirs. Et que très rapidement, oui, il va rejoindre, alors peut-être pas au même niveau, hein, mais toute cette génération des Koundé ou autres, où tu te dis, hein, mais dans n'importe quel autre pays, il est titulaire, ou en tout cas pas loin d'être titulaire, et là, il peut même pas être appelé avec l'équipe première.
Homme du match pour sa première, là, à 20 ans, et apparemment, donc, il a fait un tacle en tant que dernier défenseur qui a sauvé une situation. Donc ça commence bien pour Maxence Lacroix, qui vient de Sochaux, c'est ça, Christophe?
Oui. Sochaux, grand club formateur qui survit à toutes les péripéties financières en vendant toujours des joueurs. Alors parfois ils les vendent pas, parfois ils partent en fin de contrat, ça c'est le revers de la médaille. Mais ils ont notamment sorti Agoumé aussi, qui fait partie des joueurs qui seront peut-être à suivre cette saison, lui du côté de l'Inter.
À ne pas confondre avec le Lacroix de Saint-Etienne,
Léo,
qui vit une carrière un peu moins prometteuse.
Oui, Suisse, lui. Pour le coup,
oui.
Qui a pas marqué le championnat. Il y a eu beaucoup de défenseurs de Saint-Etienne ces dernières années qui n'ont pas marqué le championnat. Ben voilà pour vos joueurs à suivre, messieurs. Je vérifie dans les mentions si je n'ai raté personne. Tu avais du Amine Gouiri, Florent, mais je l'ai dit. J'ai pas parlé du Jonathan Clauss à Lens. Alors ça, j'ai l'impression qu'on va beaucoup parler de Lens cette saison, donc on aura l'occasion de développer sur Jonathan Clauss. Et du côté de Christophe, non, il y avait tout. Bon, après, des joueurs à suivre en Europe, il y en a plein. Mais voilà pour ceux qu'on avait identifiés en ce début de saison. On va pouvoir passer à nos paris avec notre partenaire PMU.fr.
PMU vous présente la séquence prono.
Les pronostics qui vont cette fois concerner pas mal de choses de la Ligue 1, de l'Espagne, de la Première Ligue et de la Coupe d'Europe. On va commencer avec toi, Christophe, puisque tu es le vainqueur incontesté de la saison dernière. Ça a donné quoi ce week-end tes paris?
1 sur 2. J'avais Everton moins 1. Everton a gagné avec 3 buts d'écart face à West Brom. Donc là-dessus, pas de souci. J'aurais même pu être plus ambitieux. Par contre, la victoire de Leverkusen n'est pas passée. Merci la croix. Mais bon, je suis quand même une cote un peu plus de 2. Je crois que c'était 2-20. Donc c'est léger positif, mais c'est positif quand même.
Alors, qu'est-ce que tu nous proposes pour cette semaine? C'est toi qui nous emmènes en Espagne, en Angleterre. D'abord l'Espagne, parce que je pense que ce sera pas forcément un des matchs les plus amusants de la semaine.
Eh oui, mon menu, le premier plat, c'est un match entre l'Atlético et Grenade. Alors, vraie question sur l'Atlético. Qu'on n'a pas encore vu à l'œuvre avec les reports pour les équipes qui étaient encore engagées sur les coupes européennes, hormis le Real là, qui a joué hier soir au moment où on enregistre. Donc on sait pas trop pour l'Atlético. Par contre, pour Grenade, on sait. Grenade est premier du classement avec 6 points, 4 buts marqués en 2 matchs, 2 matchs à 2 buts. Victoire à domicile face à l'Athletic Bilbao et face à l'Aves, avec des bonnes performances individuelles de plusieurs joueurs, notamment Matchis, Herrera, j'aime beaucoup. Mon pari, c'est que les deux équipes marquent, c'est à 2-20. Grenade a souvent marqué les buts, ça fait partie des équipes de Liga qui ont réussi à performer en ayant une vraie volonté de quand même essayer de jouer et de presser haut, ce qui n'est pas toujours la norme. Je pense que cette qualité va faire qu'ils vont réussir à marquer face à l'Atlético, ce qui est quand même pas facile. De base, malgré tout, l'Atlético à domicile avec des très bons joueurs de foot. Alors on verra s'il y aura des recrues d'ici là. J'ai vu qu'il y avait des rumeurs de Luis Suarez notamment, je sais pas où ça en est là pendant l'enregistrement. Mais l'Atlético est quand même une équipe qui marque quand même régulièrement des buts, même si elle n'en marque pas des milliers. Donc entre l'Atlético, qui est la meilleure équipe des deux je pense, et Grenade qui marque deux buts là à chaque match et qui a cette volonté d'aller de l'avant et qui est plutôt en confiance, franchement, que deux équipes marquent dans un match de foot, que ça soit à plus de deux, ça me donne envie d'y aller parce que c'est quand même pas mal.
Grenade qui compte notamment dans ses rangs Luis Milla, recrue de Tenerife, qui a commencé plutôt
mal.
Qui est le fils de Luis Milla lui-même, donc l'ancien du Barça. Qui était un sacré joueur lui aussi.
C'est hein, ça, l'un des premiers 6 relanceurs de l'histoire du foot. Ouais.
L'occasion de voir les matchs du Barça de Cruyff, il était notamment de ces années-là. Et c'était plutôt pas mal techniquement, Luis Milla. Pareil pour le fils qui a fait une grosse saison en deuxième division avec 8 buts en championnat. L'autre match, Christophe, pour toi, je sais pas pourquoi j'ai dit l'autre comme ça, mais pas grave. Tottenham Newcastle avec pourquoi pas Reguilón et Bale sur le terrain.
Ouais, peut-être parce que tu pensais à la chanson Double Jeu. Je suis l'un et l'autre. Alors, mon pari, c'est Tottenham Newcastle, Tottenham moins 2. C'est à 4-20. Alors, au début, j'étais sur Tottenham moins 1 et puis je me suis un petit peu encanaillé. Parce que Everton ayant gagné largement ce week-end, je me suis dit, j'aurais pu être plus ambitieux sur mon pari, donc je vais l'être cette semaine-ci. 4-20, c'est pas mal. Pourquoi Tottenham moins 2? Parce que Newcastle était quand même assez nulos ce week-end. Prendre 3-0 à domicile face à Brighton. Alors Brighton essaie de jouer, mais réussit d'ailleurs plutôt à jouer, mais c'est pas la meilleure équipe du monde. Donc prendre 3-0 à domicile, c'est assez embêtant. Brighton, où l'ami Yves Bissouma était bon jusqu'à un carton rouge, que je vous conseille de voir, où il tente une aile de pigeon et en fait il fait une aile de pigeon dans une tête. Donc un carton rouge malheureux parce qu'il fait pas exprès, mais un headshot assez spectaculaire. Et donc Newcastle qui a gagné la première journée, mais qui est quand même l'une des équipes les plus pénibles à suivre en Europe. Hein, je suis désolé pour les gens qui aiment Newcastle. C'est pas contre vous, mais là ça fait quelques saisons que c'est vraiment difficile de se prendre de passion pour ce type de foot. Et en face, Tottenham qui s'est réveillé après un début de match un peu compliqué face à Southampton, qui gagne 5-2. Avec un truc assez rare, puisque Son marque 4 buts et Kane fait 4 passes décisives sur chaque but, plus un but lui-même. Donc, même si Tottenham avait perdu lors de la première journée face à Everton, je me dis que la dynamique des deux équipes, une qui gagne par 3 buts d'avance, enfin 3 buts d'écart en sa faveur, et l'autre 3 buts d'écart en sa défaveur, bah pourquoi pas rester là-dessus et qu'il y ait à nouveau 3 buts d'écart minimum. Donc du coup, Tottenham moins 2 à 4-20 à domicile sur la dynamique.
Merci Christophe. Autour de la tenue, qui va nous parler d'abord de Coupe d'Europe et peut-être clarifier quelque chose parce que je regarde toutes les sources internet et je ne sais pas comment appeler le club que Reims va affronter. C'était Vidéoton, il y a marqué Molvidi sur certains sites, sur Ouscord il y a marqué que c'est le Fervar FC, mais avec le logo de Vidéoton. Donc je ne sais pas contre qui Reims joue, mais quel est ton pari contre cette équipe innommable?
Alors on va dire qu'il joue contre l'équipe qui avait sorti Bordeaux au même stade, je crois, de la compétition il y a 3 ans maintenant, je ne sais même plus, je suis perdu sur les années, c'est pas grave. On va l'appeler Molvidi parce que c'est comme ça que le pari est inscrit sur PMU.fr. Donc Molvidi Reims, Reims qui s'est sorti du premier piège en sortant le Servette Genève la semaine dernière. Une victoire 1-0 avec un but inscrit très rapidement dans le match, ce qui leur a permis un petit peu de se faciliter la tâche pour la suite. Et j'espère pour les Rémois qu'ils vont faire la même chose, c'est-à-dire que face au Vidéoton de Loïc Nego, qui est toujours là-bas, qu'ils vont mener en première mi-temps et remporter le match à la fin. Donc c'est le pari, vous savez, avec Reims vainqueur à la mi-temps et vainqueur à la fin du match. Donc normalement c'est écrit Reims. Et c'est coté à 3-10. Donc voilà, en espérant que les Rémois qui laissent filer pas mal de points en championnat sur ce début de saison atteignent au moins cet objectif de la Coupe d'Europe et l'atteignent sans se faire peur face à Vidéoton qui avait quand même sorti les Girondins de Bordeaux il y a quelques temps, je le rappelle, à mon grand désarroi.
Je suis en train de regarder ce que fait Molvili ces derniers temps. Ils sont leaders du championnat de Hongrie. Ils ont récemment battu la Puskás Academy, qui est quand même un très bon nom de club. Il y a pire en Hongrie, qui est premier du classement devant Ferencváros. Voilà à peu près pour et je regardais s'il y avait d'autres joueurs qu'on connaissait. Il y a un Stopira, mais ce n'est pas du tout Yannick Stopira, quelqu'un qui n'a rien à voir, et d'autres joueurs que je ne connais pas. Il y a un autre français, Lies Afid Ouvry, que je ne connais pas. Donc voilà, il y a, en tout cas c'est une, je, là on, comme on connaît pas, je, on a tendance à se dire ah bah Reims va passer tranquille, on n'est pas à l'abri de faire comme Bordeaux a fait il y a quelques temps finalement, Florent, et de tomber contre une équipe qui est pas du tout une équipe de tocard, au contraire. Donc à voir pour Reims, je crois que c'est le troisième tour et qu'après il y aura un barrage, c'est ça ? On en est là de la...
Je crois que c'est ça, ouais.
Voilà pour Molvidi Reims, ou Fervar Reims, ça dépend comment vous les appelez. Ton deuxième pari, c'est plus simple à dire, c'est sur Nîmes-Lens, deux équipes qui nous passionnent depuis le début de la saison, donc un pari passionnant.
Ouais, deux équipes une équipe qui m'a fait perdre la semaine dernière, vu que j'espérais un Lyon-Nîmes beaucoup plus animé que le 0-0 qu'on a eu. J'avais annoncé plus de 3,5 buts, mais je reste quand même dans mon idée que Nîmes va offrir des buts à un moment donné quand même. Donc je reste sur le même pari, plus de 3,5 buts dans le match, en ayant un peu plus confiance dans le fait que Nîmes à domicile face à Lens, qui est un promu, va retrouver en fait ses ambitions des matchs précédents, parce qu'à Lyon ils y sont allés un petit peu, si je suis ce que nous en a dit Julien Momont, pour bétonner, pour défendre. Donc je me dis qu'à domicile ils vont remettre les ingrédients qu'ils avaient mis face à Rennes, qu'ils avaient mis face à je ne sais plus qui auparavant d'ailleurs, mais qui avaient amené des matchs assez spectaculaires, face à Brest aussi je crois, pour une victoire 4-0 à la maison. Donc face à Lens, je pense qu'ils vont retrouver ça, cet talent offensif. Et côté Lensois, on a vu une équipe, j'en ai parlé tout à l'heure face à Bordeaux, mais sur les matchs précédents aussi, qui est assez sûre de son fait, qui maîtrise toutes les phases de jeu quasiment, et qui est très complète et qui a surtout des ambitions aussi offensives. Et donc je pense que le clash des deux dans un duel entre deux formations qui ont plutôt bien réussi leur début de saison, même si les résultats suivent pas tous. Ce sont deux équipes qui sont convaincantes jusque-là. Je me dis que ce Nîmes-Lens peut être la bonne surprise. Je sais plus quand est-ce qu'il est programmé. Est-ce que c'est le match, un des matchs du dimanche 15h pour le multi? Ouais, c'est ça. Je pense que ça peut être la très belle surprise en termes de spectacle du dimanche 27 septembre à 15h. Et donc, je pars sur plus de 3,5 buts dans le match. C'est coté à 3,10 aussi.
Merci Florent pour ces deux paris. Qu'est-ce que tu avais fait la semaine dernière sur tes paris d'ailleurs? Je t'ai pas posé la question.
J'avais fait 0-2 parce que j'avais donc le Lyon-Nîmes qui a fini à 0-0 et j'avais le Leeds-Fulham où j'avais mis Leeds moins 1.
Ah oui.
Et malheureusement, ça s'est fini à 4-3 après avoir mené 4-1. Donc j'étais ravi.
Bon, on espère que ça ira mieux cette semaine, Florent. On sait que tu réfléchis beaucoup plus que nous à tes paris, donc du coup, c'est un peu frustrant de te voir derrière en difficulté. Tu as subi ça.
C'était assez faux, ça, mais bon.
Non, moi, en tout cas, c'est pas frustrant. Moi, je suis très content. Hein, mais...
Non, mais parce que toi, tu n'as pas de cœur, Christophe. Tu ne cherches que la victoire. T'as pas de solidarité avec ton équipe. Tu vois, toi, t'es un joueur individualiste dans un collectif.
Ah, mais vous n'êtes pas mon équipe. Évidemment.
Voilà, tu vois, c'est comme ça, c'est clair. Le programme, Florent, pour les jours à venir. Et puis ensuite, on pourra se quitter.
Alors j'aurais adoré vous dire qu'il y a un nouvel épisode des 120, mais les plus assidus qui ont déjà écouté ce qui a servi d'épisode ce mois-ci ont compris que malheureusement on a eu un problème d'enregistrement avec Maxime Brigand de SoFoot. Donc on a changé un petit peu la formule des 120. Il n'y aura pas d'épisode complet normaux ce mois-ci, le 20 septembre. On revient le 20 octobre et en fait on finira l'année. Il reste 4 épisodes à faire au lieu de 3 et le dernier épisode sortira le 31 décembre. Donc 20 octobre, 20 novembre, 20 décembre et 31 décembre. Et on verra pour les invités. Maxime reviendra pour parler peut-être de Thiago Silva avec toi. C'était une des discussions les plus enflammées des 120. Malheureusement, elle ne sortira jamais.
Est-ce qu'on parlera de Frigide Barjot?
Ah, mais c'est...
Et si tu retrouves ta comparaison, on parlera peut-être de Frigide Barjot. On ne sait même plus à propos de quel joueur tu l'avais faite, cette comparaison.
Le podcast avait duré 2h50. Alors, c'était d'une qualité exceptionnelle. Donc, j'en suis encore triste 3 jours après, alors que pourtant, je suis pas du genre à être souvent triste. Mais c'est vrai que 2h50, il y avait eu des belles passes d'armes et des moments un petit peu rigolos.
Voilà. Et ben on espère faire aussi bien pour l'épisode qui sortira le 20 octobre. Et en attendant, et ben va y avoir des sagas. Le retour de la saga consacrée à, je ne sais plus, Christophe, c'est Argentine.
République tchèque. Ça voit que je suis le seul à avoir vu ce match hein. Chaque semaine.
Oui, pour l'instant. Ouais.
Oui, Argentine, République tchèque, avec donc les buts de Agüero et de Zárate contre un but de Fénin et notamment un certain Kalouda qui n'est pas le même que Florent. Qui sera pas mal en valeur dans ce match, mais tout ça, on le détaillera au moment de cette saga.
Qui sortira en fin de semaine, sans doute vendredi, le temps que moi-même et que Raphaël, on ait le temps de voir ce match. Et puis voilà, et puis ce sera bientôt ensuite la fin du mois, donc fin du mois, nouvelle FAQ, qui sortira ensuite la semaine prochaine. Mais d'ici là, on sera déjà revenu avec un nouveau gratuit.
Très bien, merci à vous deux, merci à vous tous, auditeurs et auditrices, de nous écouter. On est encore sur tous les réseaux sociaux. Normalement, ça y est, sur les plateformes, les épisodes sortent tous en même temps.
Ouais.
Sur toutes les plateformes, que ce soit Ocha, Spotify et compagnie. On est toujours sur le Discord, donc n'hésitez pas à aller sur la page de Vue du Banc sur Twitter. Il y a toutes les infos si vous voulez discuter plus régulièrement avec nous. Ciao.
Salut.
Cordialement.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.